Bienvenue dans l'équipe de Greg, merci d'être avec nous. Tout de suite, rectification, hein. 144e émission et 44 ans pour Ronaldinho. Ah oui, ça nous met un coup de vieux, hein. On va s'amuser, s'informer, se divertir autour de la planète football avec Alicia Déby. Bonsoir Alicia.
Bonsoir Greg.
Vous êtes très loin de ces 44 ans, Alicia.
Heureusement, j'ai
une
encore
petite dizaine
beaucoup de temps. Je touche du bois.
Non, mais de toute façon, vous allez y aller, hein. Vous savez, c'est pas.
Je touche du bois.
Je touche du bois pour jamais avoir 45 ans.
Non, pour que ça dure le plus longtemps possible.
Karim Benani, bah, c'est l'année prochaine. Bonsoir Karim.
Non, dans quelques années, mais pas très loin d'ici, hein, finalement. Non.
Bruno, on y est, Bruno?
On a passé la barre.
On est en plein
ah
bon,
dedans,
Bruno.
Oui.
Bonsoir Bruno, bienvenue au club.
Karim, c'est son année.
Karim, non, non, elle est beaucoup plus jeune que ça, Karim.
Largement.
Regardez, ça se voit.
Allez, ah ben, quand on est bien maquillé.
Voilà, de l'autre côté, Olivier Bossard. Bonsoir Olivier. Trois pièces, un, deux, trois, le back-to-back. Je vous vois en couleur d'été, un peu crème.
Wow. Comme ça. Ouais.
Très beau.
Ça, c'est 30 ans depuis hier.
Mais... Et Olivier, on dirait pas, mais 44 ans, c'est dans 2 ans, 3 ans, 4 ans.
Pas du tout.
Ouais. Oh, il fait son retour. Regardez ça, on dirait un petit anglais des années 75, époque, vous voyez. Allez, début du punk, new wave, tout
ouais,
ça.
Ouais, j'aime bien.
Adrien Courrouble.
J'aime bien.
Il a dansé le ska.
Le jeune, il pourrait être notre fils. Ouais. Ah bah là, moi, quand j'aurai 45 ans, vous serez plus là, tous. Hein.
Oh.
Quand même.
C'est sur le banc.
La vérité, c'est qu'il a complètement raison, de toute façon. Voici le sommaire de l'émission. De quoi allons-nous parler ce soir? France-Allemagne, est-ce que c'est toujours un choc? Bon, regarde, on ne cherche pas le débat absolu, mais c'est vrai que l'Allemagne a plus de difficultés. L'euro aura lieu chez eux. Est-ce qu'on s'enflamme pour cette rencontre? Qui joue le plus gros? Alors là, il y a quand même pas mal de choses hier à voir. On a vu avec Bertrand Latour la compo. Thuram, Upamecano, qui est en difficulté dans son club. Pavard, titulaire. Warren Zaïre-Emery. On va voir qui vous choisissez. Les salaires, alors on le sait, c'est le numéro quasiment le plus vendu de l'année pour le journal L'Équipe. On en a parlé hier, ça vous passionne, ça vous intéresse évidemment. Le PSG qui fait des économies de salaire et donc qui paye moins ses joueurs. Alors, simulons-moi avec Mbappé, est-ce que c'est sur la bonne voie? Vous avez un débat là-dessus. Et puis bien sûr, salaire Ligue 1, quelles sont les surprises pour vous? On a mis quelques indices là, comme ça, sur les photos de vos choix. On en parlera dans quelques instants. On aura bien évidemment le hat-trick, le zapping. On jouera deux fois d'ici une vingtaine de minutes.
Oh.
On aura le Fight Club. Voilà, on va la mettre comme ça, début d'émission, parce qu'on finit un petit peu plus tôt ce soir. On rend à 20h30, puisque derrière, c'est le multiplex pour les barrages de l'Euro 2024, avec notamment la voie A pour retrouver le futur adversaire des Bleus, Pologne, Estonie, Pays de Galles, Finlande, et puis le bingo.
Bingo.
Phrase de fête pensive généralité, ça part sur le banc. Je salue Pierre-Antoine Damcourt qui sera là pour la petite lucarne, et Antoine Pinot pour l'instant Pinot. Voici l'indispensable du soir. Bonsoir Giovanni Castaldi, vous êtes en direct depuis Châteauroux. Demain, France-Côte d'Ivoire sur la chaîne L'Équipe à la place de l'émission. On est très heureux de leur céder comme d'habitude la place le vendredi. Lundi, ce sera en prime time à 21h. France-USA qui sera également le match d'ouverture le 24 juillet à Marseille. Giovanni, vous êtes très chic, je tiens à vous le dire.
Merci beaucoup Greg, c'est très gentil, j'ai fait un effort quand même, c'est le début de la séquence olympique pour cette équipe U23, il fait très beau en plus ici à Châteauroux, donc c'est agréable. Vous voyez sur les images de Lucas Blanchard juste derrière moi, l'entraînement de cette équipe U23, Thierry Henry qui débute, il n'y a pas encore de jeu avec ballon, on est sur les étirements. On a assisté tout à l'heure, vous l'avez vécu en direct dans l'équipe de choc, conférence de presse de Lucas Chevalier et Thierry Henry. Bonne ambiance honnêtement, bon comme toujours Thierry Henry en conférence de presse, hein, il se balade, c'est un peu comme vous à la présentation, même si vous cédez votre place demain. Et puis, on lui a reposé la question fatalement sur Karim Benzema et sur les trois joueurs qu'il allait appeler ou non. Écoutez la réponse du sélectionneur des U23.
Je sais, je connais les postes. Après, entre les oui et les non, et ce qui va être possible pour pouvoir retomber sur ses pattes, je ne sais pas encore ce qui va se passer. J'ai cité aucun joueur. Vous avez cité des joueurs. Et à chaque fois, je vous dis merci, j'ai entendu comme vous. Donc, il y a pas mal de joueurs qui ont parlé là, ces derniers temps. Énormément. Et je dis toujours pas de nom. Donc, je ne dirai pas de nom non plus. Non, pas du tout. Assez facile même.
Presque prévisible.
Mais vous essayez quand même.
En tout cas, on aime bien, voilà, bon esprit, bonne ambiance. Bruno Salomon, c'est intéressant ce qu'il dit là. Il dit, je connais les postes. Je sais où j'ai besoin de renfort.
Eh oui, mais c'est après le.
C'est où? Vous savez ou pas?
Pour les espoirs?
Ouais. Bah non.
Je sais pas. Non, mais enfin moi, tu vois. Non, mais on en parlera tout à l'heure. Mais moi, il y a un garçon. J'arrête pas de me poser la question sur, par exemple, Warren Zaïre-Emery. Est-ce que c'est vraiment le bon moment? Moi, il va en avoir besoin. Par exemple, au milieu de terrain, il a besoin de ce niveau-là.
Lui, il n'y a pas eu de red flag. Hein. Je n'ai pas vu d'interdiction au Renzi Emery de la part
Pour le coup, il va falloir le protéger. Et donc, moi, je ne le vois pas faire les deux compétitions. Donc, je pense que c'est pas. Pour moi, je le mettrai avec les espoirs et je lui ferai vivre ces Jeux Olympiques. Mais c'est un avis tout à fait personnel.
Voilà. Vous serez bien le seul autour de la table.
Peut-être.
Louper l'euro. Vous avez bien entendu Didier Deschamps qui dit la priorité, c'est l'euro. Donc, quand il dit la priorité, c'est l'euro, Karim, je rebondis sur ce que dit Bruno. Comme ça, ça fait un échange. Pour vous, c'est inconcevable que si Warren Zahamri, titulaire contre l'Allemagne, peut être dans la rotation des quatre joueurs majeurs du milieu de terrain.
Non, mais c'est surtout joueurs. S'il l'a appelé au dernier rassemblement, c'est avec une idée derrière la tête et pas pour le prendre là et le frustrer pour lui dire tu ne joueras pas l'Euro, tu joueras que les Jeux et on verra pour la prochaine compétition dans deux ans la Coupe du Monde. Non, je pense honnêtement que si Deschamps l'a appelé, même si je comprends ta réflexion, Bruno.
Ah, bien sûr, c'était pas.
Intelligent comme réflexion, mais je pense que si Deschamps l'a appelé, c'est uniquement dans le but de l'emmener à l'Euro. Après, sur les différents postes, moi, honnêtement, je pense que le sélectionneur des U23 a en tête de prendre un capitaine par ligne. Donc un capitaine en défense, un capitaine au milieu de terrain, un capitaine en attaque.
Giovanni, vous confirmez ce que vient de nous dire Karim Benani, est-ce que vous avez le même sentiment que lui ou est-ce que vous avez peut-être des infos concernant ces postes qui sont ciblés par Thierry Henry?
Karim connaît beaucoup mieux le sélectionneur des U23 puisqu'ils sont amis intimes et on l'apprend dans chaque numéro de l'équipe de Greg. Mais ce que je peux vous dire, c'est que pour les gardiens, c'est sûr que non, il le fera pas parce que vu la qualité qu'il y a, Lucas Chevalier qui était d'ailleurs présent devrait être le capitaine de cette équipe demain. Il y a Guillaume Rest derrière. Sur la défense, s'il y a l'opportunité, Raphaël Varane, évidemment, je pense que Thierry Henry la sélectionnera. Mais là aussi, il y a beaucoup de qualité. Si je prends la charnière qui pourrait potentiellement débuter, on parle de Loukeba et de Lenny Yoro, c'est du très très haut niveau. En revanche, ça soit au milieu de terrain, Bruno l'a amorcé, et en attaque, là, il ne se privera pas. Donc, à mon avis, les trois renforts seront milieu offensif et attaque.
Ouais, merci, Joël. Un mot sur la possibilité Varane, là, que vous venez d'évoquer. Karine, il ne fait pas une grande saison, là, il est un peu en difficulté. Est-ce que, bien sûr, il a une expérience formidable, c'est pas la question. Top 5 des joueurs de Première Ligue, hein, on en parlera tout à l'heure.
Bravo à lui.
Ça vous plaît pas tant que ça. C'est pas. Disons que il y a quelques années, on aurait dit bah oui, banco. Là, un peu moins.
Oui. Bah déjà, moi, le foot au JO et tout le toin-toin autour, ça m'agace. Mais effectivement, ce côté on en prend trois et on en dégage quelques-uns, ça m'horripile encore plus. Varane, oui, je vois pas trop l'idée, mais après, je sais pas. Donc Thierry Henry, s'il veut Varane, pourquoi pas. Mais c'est vrai qu'effectivement, notamment Yoro, qui lui, pour le coup, est dans la tranche d'âge. Il est jeune, il joue déjà avec les espoirs. Donc c'est pour faire un Yoro-Varane, je sais pas. Varane, il est en difficulté, il a été beaucoup blessé.
Ça ne vous semble pas être l'idée du siècle?
Non. Ouais, sauf c'est pas Olivier, une mauvaise pas idée, mais c'est pas le premier truc que j'aurais. C'est pas la première idée que j'aurais eue, en tout cas.
Oui, Olivier. Non, j'allais dire, c'est difficile de se projeter sur les postes parce que Thierry Henry même l'a rappelé plusieurs fois.
Il dit je connais les postes ciblés.
Ben oui, mais on ne sait même pas qui va y aller. Et lui-même dit qu'il ne sait même pas encore avec quel joueur il va pouvoir aller à ces JO en fonction des clubs qui voudront bien.
Mais sur chaque poste, Olivier, il a choix A, choix B, choix C. Sur chaque poste ciblé, parce qu'il a trois postes ciblés.
D'ailleurs, il a envoyé une pré-liste.
Exactement. Exactement.
Mais c'est vrai qu'on n'en sait rien parce que Yoro, on dit Yoro, mais imaginons, il signe au Real. Eh bien, il est cuit.
Pour ceux qui ne savent pas, le Real ne veut pas envoyer ses joueurs étrangers.
Et Yoro était pisté, soi-disant, par le Real. Enfin, en tout cas, on imagine qu'il va quitter Lille. Quoi.
En lisant Chevalier dans l'équipe ces derniers jours, il parle de Thierry Henry. Il dit on l'écoute, on a envie de le suivre. Et je pense qu'un Varane, il peut être un peu moins bon. Je pense qu'un Yoro va le suivre et ça va apporter ce petit plus que tu veux dans ton équipe de France U23 pour les Jeux Olympiques. Moi je trouve que c'est une bonne idée parce qu'il va falloir des cadres et des gens qui quand ils prennent la parole, t'as pas un U23 qui va moufter. C'est voilà, t'auras un champion du monde face à toi.
Varane, ça a jamais été le grand taulier qui prenait la parole.
Oui, mais c'est pas grave.
Ce serait presque trop injuste par rapport à d'autres qui font des grosses saisons. Loukeba, est-ce qu'il est vraiment moins fort que Varane cette saison? Franchement, je suis pas sûr. Pourquoi est-ce qu'il viendrait lui prendre sa place?
Vous voulez dire qu'il faut cibler là où vous parlez de niveau, vous parlez pas de
leadership,
pas d'expérience. Vous êtes sur le niveau. Il faut prendre là où on a un niveau qui est pas le plus haut, c'est ça?
Yoro fait une saison exceptionnelle. Loukeba fait une très bonne saison aussi. Alors, c'est pas parce que Varane a un CV long comme le bras qu'il aurait forcément sa place dans cette équipe. Ce serait pas juste. Donc, il faut réfléchir à ça.
Mais le leadership, il est où dans cette équipe U23? On vous rappelle qu'il a donné le capitaine au départ.
De toute façon, en U23, le leadership, il est
le capitaine, celui qui va un peu mener les troupes. Pour l'instant, il est où? Il a filé son brassard à Warren Zaïre-Emery au départ.
Là, ouais, c'est lui qui a choisi.
Ouais, mais c'est pas rien. Quand moi, même. Je pense que sur la pression des Jeux Olympiques, c'est pas le côté Tokyo où c'était les pieds nickelés partant en vacances à Tokyo, quoi. Où il y a aucun club français qui voulait libérer personne. Là, c'est quand même à Paris. Si jamais t'as des clubs qui disent OK, un tel et un tel peuvent y aller, non, moi je pense qu'il faut.
Déjà, Bruno, avant qu'ils arrivent à Paris, ça se passe à Marseille. On n'est pas sûr de les voir en demi.
Non, mais
je veux dire, on en fait quand même toute une histoire de ces JO. Je veux dire, c'est pas l'événement le plus important en foot de l'été. Je veux dire, si Didier Deschamps se rétame au premier tour, c'est un fiasco. S'ils sont victorieux de l'euro, c'est exceptionnel, et les JO, ça arrive bien derrière.
Une fois qu'on y sera, Karine, on va être porté par le truc. Il y aura ça à ce moment-là, mais il faut quand même aller loin. C'est sûr que si vous êtes sorti au premier tour, ça va retomber comme un soufflet. Mais Giovanni, je reviens sur ce que disait Bruno. Mais moi, je vous ai entendu dire que Lucas Chevalier allait être capitaine. Donc ça veut dire que là, Lucas Chevalier revient et prend le brassard à Lukeba.
Exactement, Greg, pour suivre cette équipe, et on a la chance puisqu'on les diffuse sur la chaîne L'Équipe au plus près, et on passe vraiment de longs moments avec eux, que ça soit Guillaume Rest avant, c'était, même s'il est très jeune, c'est quelqu'un qui est très vocal sur un terrain, qui est écouté, qui est respecté, de même pour Lucas Chevalier qui connaît très bien ce groupe. Il y a une particularité quand même sur les 2001 qui ont rejoint cette sélection, ils ont tous disputé l'Euro Espoir cet été ensemble, donc un garçon comme Khéphren Thuram, Manu Koné, sont des joueurs qui sont très écoutés dans le vestiaire. Lukeba, honnêtement, pour voir les matchs du bord de la pelouse, il a un leadership naturel qui est assez bluffant, parce qu'il a l'anticipation, parce qu'il a la voix. Donc je trouve pas qu'en termes de leader, c'est une génération qui est très décomplexée, qui parle beaucoup, ça parle énormément sur le terrain. C'est plus en termes de niveau pur et dur que moi je serais plus inquiet par rapport à une compétition. Mais sur le leadership, c'est un groupe qui vit de manière très très bien, très très fluide, et ils se disent les choses.
Merci Giovanni. Adrien Courrouble, on en est où de nos grands, les Bleus, dont on parlera dans un instant avec ce France-Allemagne qui aura lieu ce week-end?
Ils se sont entraînés ce matin, évidemment, à huis clos, l'équipe de France. Donc pas de médias présents pour nous montrer les images de cet entraînement. Aurélien Tchouaméni, lui, il était présent en conférence de presse ce matin. Il a profité pour parler de l'absence d'Antoine Griezmann. Comment vont jouer les Bleus sans un joueur qui n'a pas manqué 84 des derniers matchs de l'équipe de France?
Je pense qu'en l'absence de Griezmann, tout le monde va devoir encore élever son niveau de jeu, parce que c'est un joueur clé dans notre équipe. Donc il va falloir récupérer plus de ballons, il va falloir faire plus de passes, tous les milieux, les attaquants, les joueurs aussi un peu plus défensifs. Donc ça va passer par l'équipe, mais après on a ce qu'il faut dans l'effectif pour pallier à cette blessure là, et on espère que ça va bien se passer.
Je suis d'accord.
Aurélien Tchouaméni qui a été interrogé sur une éventuelle participation au JO, et sans surprise, il l'a bien rappelé, le Real Madrid a mis son veto.
Forcément, de jouer les Jeux Olympiques dans son pays, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est pas quelque chose qu'on pourra peut-être réitérer dans notre vie, mais c'est notre employeur. À partir du moment où le Real a décidé de mettre son veto, je pense qu'on n'a pas grand-chose à dire. Et puis tout le monde sait que c'est pas forcément une bonne chose d'être en porte-à-faux avec son employeur dans la vie de tous les jours.
Ouais. Bon, on l'a bien compris, pas de grands espoirs pour Aurélien Tchouaméni au JO. Même question pour Marcus Thuram, pas spécialement candidat, mais si on l'appelle, il répondra présent.
Je sais que c'est une très grande fierté pour tout joueur français de jouer les JO. Après, il y a un sélectionneur qui est Thierry Henry et qui fera sa liste. Si on fait appel à moi, je répondrai, mais je ne postulerai pas publiquement pour le faire.
Voilà pour Marcus Thuram. Giovanni, on termine avec vous cette page équipe de France. Un mot sur le match de demain. France-Côte d'Ivoire, à quoi faut s'attendre? À quelle rivalité? Même si je le dis, je le rappelle, vous voilà en gros plan. Vous êtes encore plus beau en gros plan, Giovanni. Lundi soir, sera France-USA. Le 24 juillet, ça sera aussi le match d'ouverture des JO. France-Côte d'Ivoire, ça dit quoi demain? Racontez-nous.
Écoutez Greg, non, mais comme tous les matchs, honnêtement, des U23, il y aura un niveau qui est important. Ce qu'on attend, évidemment, nous, à titre personnel, c'est une énorme réaction de la sélection de Thierry Henry, parce que le dernier rassemblement, c'était deux défaites, notamment la défaite face à la Corée, qui avait été énorme de déception. C'était le dernier match avant ce rassemblement plus olympique. Donc on attend de voir toujours cette idée de jeu, de prendre du plaisir, parce que c'est ce qu'a nous a donné Thierry Henry sur les deux premiers rassemblements. Donc il y aura, à mon avis, un groupe extrêmement revanchard, donc c'est à ne pas manquer.
Merci Giovanni. Et c'est demain 18h20, l'EDF à la place de l'EDG, l'équipe de France Espoir. Commentaire, Raphaël Sebaoun et Sébastien Tarago en direct de Châteauroux, France Côte d'Ivoire, bord du terrain. Giovanni Castaldi, voici le hat-trick d'Adrien Courrouble.
Et on va commencer par l'Australie opposée au Liban. C'était tout à l'heure. Il s'appelle Kenou Batchous. Il a marqué son premier but en sélection et il a évidemment tout calculé. Il a évidemment fait exprès. Olivier, je me tourne vers vous. Vous êtes bon esprit. C'était voulu de la part de Batchous.
Bah évidemment, qu'est-ce qu'il aurait voulu faire d'autre? Je comprends pas.
Premier but en sélection. Il avait parfaitement lu la trajectoire du ballon, du gardien également pour marquer ce premier but en sélection. Il y en a un qui a fait exprès à 100%. C'est un Croate qui s'appelle Roko Brajkovic. C'est les U19 de la Croatie face à l'Allemagne. Hop, Bruno, regardez à l'entrée de la surface de réparation. Boum. Un peu à la Maxi Rodriguez, Coupe du Monde 2006.
Magnifique. Très, très belle.
Regardez, hop, la référence là. Tac, le contrôle de la poitrine.
Bravo.
Et l'enchaînement.
Bravo.
S'il vous plaît.
Je vous le dis, hein. Non, c'est bon.
S'il vous plaît.
2006, vous êtes allé la chercher.
Et puis le troisième, il va être pour Karim, parce que c'est peut-être un prix Puskás. Ça, regardez, Pedro Henrique. Il joue au Brésil. C'est le championnat régional. Boum. Franchement.
Référence, une Rivaldo avec le Barça le jour contre Valence, il marque un triplé et dont le dernier but qui envoie le Barça en Ligue des Champions.
J'étais pas né.
Si vous étiez né.
J'étais pas né, regardez le retourné magnifique.
Déjà 39 ans, calmez-vous.
Concentrez-vous sur le but, s'il vous plaît. Fini
de petit coq. Oui, bravo en tout cas. Très joli hat-trick, très beau choix, très belle sélection. Bien joué.
On remercie
Adrien, je vous en prie. On va passer au salaire parce que c'était évidemment le dossier. Hier, on recevait Yves Leroy, le patron de la rubrique foot du journal. Il était venu hier dans l'émission nous présenter dans vos premières quelques salaires. Puis alors évidemment, bah là, ça a mis le feu partout. Hein.
Oui, effectivement, le très gros dossier dans le journal du jour. On a le salaire de Ligue 1, de Ligue 2, la D1 féminine, on a même le salaire de l'étranger, même le salaire des arbitres. Figurez-vous que Kylian Mbappé, énorme surprise, est le joueur le mieux payé de Ligue 1, assez largement évidemment, devant Ousmane Dembélé et Marquinhos. Les 10 premiers joueurs les mieux payés de Ligue 1 sont tous au Paris Saint-Germain. Pour voir un autre joueur qu'un Parisien, il faut aller chercher la 11e place avec Pierre-Marie Aubameyang et Wissam Ben Yedder, qui sont tous les deux payés 650 000 euros par mois.
Alors, je vous pose une question assez simple comme ça pour en parler. Quel salaire vous surprend le plus ou vous surprenne le plus si vous avez plusieurs noms? On va regarder vos ardoises, évidemment. Alors, Clément Turpin, on va parler de l'arbitrage.
Oui, pour parler de tout le monde.
Alicia, bien sûr.
C'est intéressant.
Wissam Ben Yedder.
Vous allez comprendre.
Ouais, vous allez m'expliquer. Jack Bryan et Marie-Antoinette.
Katoto.
Ah oui, bien sûr.
Je vous fais la même.
Bien sûr. Non, parce que bien sûr, et la Ligue 1, Arkema, ça c'est bien.
Tout à fait.
De l'autre côté, alors moi, ce sera Correa et Mukiele. Et à mon avis, je vais vous dire, je sens que ça va pas être généré de gentillesse. C'est Thierry. Je pense, hein. Enfin, je dis ça, je vais un peu partir. Les salaires à l'OM, carrément en général, Olivier Bossard. Sofiane Diop, 250K et Boulka, 55K. Oui, ça c'est vrai que pour le gardien du soir, c'est pas énorme. Bah, tiens, Olivier Bossard. Parce que vous n'avez pas commencé tout à l'heure, vous avez terminé, vous allez commencer celui-là. Vous me parlez de l'OM en général. Pourquoi vous faites une généralité des salaires de l'OM?
Parce que j'entends chaque année que l'OM a beaucoup de difficultés financières. J'entends que chaque année, Pablo Longoria est obligé de faire un peu le magicien pour essayer de faire mon démontage financier, pour pouvoir approcher des joueurs. Et au final, quand je regarde la liste des joueurs de l'OM et leur salaire, je suis assez époustouflé. Je me rends compte au final que l'OM a plein d'argent. Je me rends compte que Franck McCourt, finalement, paye extrêmement bien et plutôt généreux, parce qu'on peut rajouter à ça les 30 millions qu'ils ont mis sur Vitinha récemment ou les 25.
C'était 25 parce qu'il y avait des bonus, mais bon.
Oui, mais Gerson également avait été payé extrêmement cher. Je me souviens d'un papier la saison dernière de Mathieu Grégoire où justement Pablo Longoria expliquait qu'à son arrivée c'était très compliqué parce qu'il y avait une masse salariale énorme du côté de Marseille et qu'il avait traîné ça pendant des années, notamment avec le contrat de Strootman, donc ils avaient eu du mal à se débarrasser. Et au final, bah, je me rends compte.
Euros, hein, je crois,
ouais, c'est ça. Bah, au final, on se rend compte qu'ils refont exactement la même chose. Donc, je suis très surpris. Ouais.
Alors après, tiens, on va parler un peu de l'OM comme ça. Karine, Aubameyang, c'est quand même une star du foot. C'est le meilleur buteur de la Ligue de l'histoire de la Ligue Europa. C'est normal qu'il soit à ce niveau de salaire, non? Est-ce que vous partagez par exemple l'opinion sur la grille tarifaire moyenne des salaires des joueurs de l'OM?
Et donc, oui, non, mais je suis totalement d'accord avec Olivier, surtout qu'il y a quand même des salaires stratosphériques par rapport à la situation de Marseille. C'est-à-dire que le PSG fasse n'importe quoi en termes de salaire, c'est pas grave, entre guillemets. Ils ont un état derrière, ils s'en sortent toujours. Marseille, ils ont la chance d'avoir McCourt. Alors il y en a beaucoup qui voudraient que McCourt dégage, mais sans McCourt, tu finis comment? Tu finis peut-être avec un fonds qui te laisse dans des difficultés absolues et tu finis peut-être comme Bordeaux avec des responsables qui sont pas très
Responsable.
Ouais. j'allais dire un autre mot, mais après, non, j'ai pas envie d'avoir un procès. Voilà, donc voilà. Macourt, la réalité, c'est qu'il met de l'argent.
Vous avez la réalité qui lui est arrivée devant les yeux au moment de parler.
Elle s'est vue au tribunal.
Macourt, il met de l'argent. Et effectivement, je suis scotché de certains. Je suis désolé. Alors après, il n'y a aucun problème avec les joueurs. Personne n'a forcé.
Bien sûr.
Évidemment, des incompétents.
Et vous avez mis Correa, par exemple.
Oui, mais j'ai mis Correa. Mais en fait, Aubameyang aussi, je trouve que c'est lunaire quand t'es Marseille, quand t'es en difficulté et que tu lui offre ce salaire-là pendant 3 ans. Mais j'en veux pas à Aubameyang, évidemment.
Non, mais
je suis à la place d'Aubameyang, je prends la même. J'en veux à
oui, mais là, ça
Longoria.
Marche, Aubameyang.
Non, mais d'accord, mais dans tous les cas, ça marche. Si ça marchera que si vous êtes en Ligue des Champions et c'est pas du tout gagné. Et c'est sur 3 ans.
Il vient pas sinon. Si vous lui proposez pas un contrat Maus costaud à son
mais
âge.
Mais sauf que vous aviez déjà Alexis Sanchez à 500 000. Et 650 000 pour Marseille, c'est colossal sur 3 ans. Et Correa, alors là, c'est la folie absolue. C'est-à-dire que le mec, il est remplaçant en Serie A, il met pas un pied devant l'autre. T'as la chance qu'il y ait Marseille qui vienne te chercher. Et en plus, tu prends une tonne. En fait, je ne comprends pas comment c'est possible. C'est comme par exemple, j'ai un compte Moukele, mais je l'ai pris parce que je me suis dit, il vient d'où? Leipzig. Club moyen, il vient pas du Real Madrid. Il est à Leipzig, le monde entier se l'arrachait, évidemment que non. Et tu lui donnes une fortune par mois. C'est ça qui est dingue, en fait. C'est qu'il n'y a aucune cohérence. Que Ousmane Dembélé, qui est loin d'être mon joueur préféré, prenne une fortune au PSG, évidemment. La clause, elle n'était pas très importante au Barça. Et il y a énormément de clubs qui voudraient avoir un Ousmane Dembélé dans leur rang. Mais Correa, personne n'en veut. Et Moukele, il n'y a pas la terre entière qui s'est dit « Tiens, il nous faut absolument ce latéral. » Donc, il n'y a aucune cohérence par rapport à la demande et au prix, finalement, qu'ils arrivent à récupérer tous les mois.
On rappelle que le salaire de Nordi Moukele, comme l'a brillamment démontré Karine, qui est peut-être un peu haut, 700 000 euros mensuels bruts, c'est le 10e plus gros salaire de Ligue 1 et du Paris Saint-Germain. Donc, il est devant des Bradley Barcola, Pascal Kimpembe, ou encore Gonçalo Ramos et Fabian Ruiz. C'est un défenseur qui joue une moyenne de 18 minutes par match cette saison au Paris Saint-Germain. Donc, c'est le 10e salaire de l'effectif, mais c'est loin d'être le 10e temps de jeu de cet effectif. Vous avez parlé de Correa.
International, quand même. Je voudrais juste préciser quand même qu'il est international.
C'est ça. Une sélection.
Moukele.
Et pour revenir sur Correa qu'évoquait Karine, 450 000 euros mensuels bruts. C'est le 2e salaire de l'Olympique de Marseille. Et il est au-dessus des Ismaël Assar, des Jonathan Clauss, des Valentin Rongier, Sanchez et Mbemba.
Il est pris en totalité par l'OM, ce salaire?
Oui. A priori, oui.
Ouais, donc c'est... Non mais après, je suis très à l'aise hein, pour parler de ce thème-là parce que je sais que ça fait réagir pour les réseaux sociaux.
Vous êtes top 25, vous, d'ailleurs.
C'est ce que j'allais dire, parce que vous êtes de pays. Voilà.
Donc l'idée, non mais d'en parler, je rappelle qu'un joueur de foot est transféré, on donne le montant de son transfert, on donne sa rémunération, ce sont des choses qui sont dans l'histoire du foot. Voilà, ce sont des choses.
Et puis c'est les dirigeants qui sont fautifs, c'est absolument pas les joueurs.
Donc c'est pas sur les joueurs. Et une fois de plus, on vous proposerait ce contrat-là, tout le monde les prendrait.
Évidemment.
Sans hésiter. Donc là, on a vu du côté de l'OM. Ah, attendez, on me signale. Oui, Benoît Pérez, vous êtes d'accord avec moi? Bien sûr, il est là, regardez.
Bingo!
Karim Benani.
Avec plaisir.
Bien sûr, regardez. Karim Benani, sur mon salaire, regardez, de la Pérez, vous pouvez y aller. On l'a vu venir, hein, parce que quand on prépare l'émission, on sait, vous devez être en haut milieu. Point salaire, il gagne pas autant que vous, Greg, vous êtes top 25.
Absolument pas du tout.
Non, mais top 25, c'est la même.
Vous êtes malhonnête.
Soyez honnête.
Mais c'est votre crédit.
Allez là-bas. À tout à l'heure, petit Karim. De toute façon, je voulais vous faire pendant 4e, donc c'est parfait. Évidemment. Bruno.
Oui.
On va parler de la Ligue 1 féminine.
Oui.
D1
et qui passera Ligue professionnelle le 1er juillet prochain.
Alors expliquez-moi votre choix.
Marie-Antoinette Catoto pour deux choses. D'abord, avoir une Parisienne en tête du classement, ce n'est pas commun. Alors ça fait 2 saisons que c'est le cas. Elle touche 58 000 euros bruts par an. Il faut savoir que le Paris Saint-Germain est un dépensier chez les garçons, mais chez les femmes et chez les joueuses, il n'a pas fait n'importe quoi. Et ça a souvent été Lyon qui surpayait et Paris qui était derrière, qui avait des très bons salaires. Pas exagéré. Et donc voilà, je voulais le souligner parce que si tu regardes le top 10, t'as 3 Parisiennes, seulement 3 Parisiennes, et tout le reste, c'est Lyon qui propose des salaires. Et après, moi, ce que je vois, c'est qu'on est quand même, et vivement que la Ligue professionnelle arrive, parce que quand on voit les salaires pour les autres clubs, on est sur des moyennes de 1 200 euros.
C'est ce que disait Yves Leroy.
100 euros brut, voilà. Et donc, ça, c'est à souligner, et il faut vite quand même qu'il y ait un salary cap pour ces joueuses.
Salaire minimum.
Voilà, un salaire minimum. On leur demande d'être professionnels. Et malheureusement, pour en vivre, quand tu vois les salaires à Guingamp ou dans d'autres clubs. Donc voilà, c'était juste pour souligner
que
Marion
Cotto. Mais vous avez complètement raison. Parce qu'une fois de plus, on ne peut pas parler de alors, la parité, plein de choses si vous voulez, mais après, il faut voir aussi ce qui est rapporté par rapport au nombre de maillots vendus, toutes ces choses-là. On ne va pas rentrer là-dedans, faire de la sous-démagogie ou de la démagogie. La réalité, c'est que vous avez raison. Il faudrait que celles à qui on dit vous êtes professionnels puissent exercer de manière tout simplement. Karim, leur métier, bah voilà, avec des conditions qui...
Après, Marie-Antoinette, quand elle a pris ce salaire-là, et tant mieux évidemment pour elle, tout le monde la voulait. Elle était en fin de contrat avec son club formateur, le PSG. Elle
était pas encore sélectionnée. C'est comme en télévision partout, quand vous avez des demandes sur vous.
Après, malheureusement, aujourd'hui, la blessure a fait qu'elle n'a pas retrouvé encore son niveau, etc. Mais à l'époque, tout le monde
se
battait pour l'avoir.
C'est l'une des meilleures joueuses, c'est la meilleure joueuse française sûrement. Et voilà, qu'elle touche ça, moi, ça me choque pas.
En tout cas, c'est donc la joueuse la mieux payée de Ligue 1, 58 000 euros. Vous l'avez dit, beaucoup de Lyonnaises dans ce top 10. On va regarder justement le top 5. Il n'y a que deux Parisiennes, trois Parisiennes même, avec Katoto, qui sont présentes dans les 10 joueuses les mieux payées. Et après, ce sont souvent les Lyonnaises qui sont devant. Vous le disiez, Bruno, aussi, la D1 qui paye très peu d'autres, enfin les clubs de D1 qui payent très peu d'autres joueuses. Dans des clubs comme Saint-Etienne, comme Guingamp, on a des salaires qui avoisinent les 700 euros parfois par mois.
C'est en progrès. Et c'est normal, et c'est mérité.
Voilà. Mais sauf qu'on demande à ces clubs-là de professionnaliser, et si tu demandes à une joueuse, pas d'arrêter ses études, mais de s'investir beaucoup plus, ben, il faut que le salaire quand même suive un
temps. Tiens, Mélanie, vous m'avez dit Wissam Ben Yedder. Alors là, je suis un peu intrigué. Il est 11e.
C'est pas du tout pour Ben Yedder, qui mérite totalement son salaire, vu le buteur qu'il est. Je suis étonné de ne pas voir d'autres monégasques dans le top 30. Souvenez-vous, il y a quelques années, Falcao, James Rodriguez, des joueurs confirmés. Moi, ça m'a alerté ce matin quand j'ai lu le fameux classement. Je regarde les différents salaires. Je vois Golovin à Monaco qui gagne deux fois moins que Ben Yedder. Je vois ensuite Zakaria à 300 000 euros également. Kerrer qui est quatrième. Et je me suis dit, ça prouve, attention à ce que je vais dire, mais le déclassement, malgré tout, de l'AS Monaco, même si Monaco est en course pour se qualifier. Il y a quelques années, Monaco était en course pour être champion de France avec le Paris Saint-Germain.
En lice pour gagner la Ligue des Champions.
Exactement, qui était capable d'être en quart ou en demi-finale de Ligue des Champions. Voilà pourquoi je me suis dit étonnant de ne voir que Ben Yedder, qui mérite totalement encore une fois son salaire et d'être dans le top 30, mais de ne pas voir d'autres monégasques, alors qu'il y a quelques années, franchement, on avait pas pléthore de monégasques, mais quand même pas mal de monégasques. Juste derrière les Parisiens, on avait des joueurs de l'AS Monaco qui étaient là. Et là, on en a un seul dans le top 30. Voilà pourquoi ça m'a alerté.
On en reparlera tout à l'heure avec un clin d'œil sur le Paris Saint-Germain où vous avez eu l'article qu'on nous dit ils font un peu plus attention. Alors les sommes sont importantes, bien sûr, mais c'est un top 8 européen. Mmh. Mais en tout cas, une fois que vous aurez fait les cinémas repartis, je parle sous votre contrôle, Bruno, et puis donc les 6 millions mensuels juste de salaire de Mbappé, ça redeviendrait plus raisonnable. Je mets les 1 hein, et je fais même le truc de tocard, comme ça, les guillemets. Les réseaux s'enflamment devant ce classement.
Pour deux joueurs en particulier, deux joueurs qui ont été notamment cités sur ce plateau. Je ne crois pas qu'on ait parlé en revanche de Leivin Kurzawa, mais forcément, non. Ça fait quelques années que la situation de Leivin Kurzawa fait beaucoup parler.
C'était 500... avant la nouvelle direction sportive.
Hein. Ouais, c'était il y a quelques années déjà. 500 000 euros mensuels pour ne jouer que 8 minutes cette saison, c'était contre Strasbourg fin octobre. Depuis le mois de décembre, il ne figure même pas sur le banc, Kurzawa. Forcément, sa chambre. Alors, je l'aime bien, Kurzawa, mais le poteau joue autant que moi avec cette première internaute sur les réseaux sociaux. Un autre internaute parle d'emploi fictif, toujours sur le ton de l'humour. Et d'autres se montrent même plutôt compréhensifs. Kurzawa prend 500 000 euros par mois pour faire des centres à Mbappé à l'entraînement et faire la fête à Paris. Comment veux-tu lui reprocher de se raccrocher à ce contrat? Il a la planque du siècle, le mec.
Je peux me permettre, Alicia? Oui. Je trouve honnêtement que ce que subit Kurzawa, il n'a rien demandé à personne.
Il y a du bashing.
On lui donne son salaire.
Bien sûr.
Ils veulent l'argent de personne. Bien sûr. Et en fait, trouver parfois des messages, parce que là, ils sont soft les messages que tu mets, Alicia, mais il reçoit des messages, j'imagine, en longueur de journée, des trucs bien hardcore, je pense que tu peux le confirmer, ouais. Bruno. Et je trouve ça franchement dégueulasse, parce que lui, ils veulent l'argent de personne. Alors effectivement, en termes de carrière, on peut redire, hein, comme Draxler il y a quelques années, qui tiquait l'année dernière. Mais lui, il est là, il est au PSG, et si le PSG veut s'en débarrasser, ils doivent payer, c'est tout. Mais aujourd'hui, ils ne veulent l'argent de personne. Après, donc, il ne mérite pas d'avoir ce bashing comme ça, hein, c'est
bien
ça.
Bien sûr, mais une fois de plus.
Et encore une fois, je ne le connais même pas.
Quand vous faites un métier public, quand vous faites ce sport-là et que vous ne jouez pas et que vous prenez ces sommes-là, il faut aussi accepter qu'on se moque de vous. Pas qu'on vous insulte.
Non, voilà.
Et
moi, là, je ne parle pas qu'on vous insulte.
Non, là, c'est de chantier en plus. Voilà. Là, c'était.
Il subit depuis son retour.
Ça, c'est sûr.
Bon, l'autre salaire qui a fait beaucoup, beaucoup réagir, et je pense comme nous tous aujourd'hui, c'est le Marseillais Correa. Correa, c'est 450 000 euros mensuels pour 354 minutes jouées cette saison. 19e du classement des joueurs les mieux payés de Ligue 1 à égalité avec Kondogbia et Veretout. Sur les réseaux sociaux, on parle de braquage à main armée. Et je terminerai avec la question de cet internaute, Kurzawa, Correa, lequel vit sa meilleure vie? Olivier, votre réponse.
Non, j'allais dire que c'est, malgré tout, c'est quand même ultra compliqué aussi pour Correa qui était venu à Marseille pour se relancer. Et on voit que ça,
il s'est blessé pendant
Il s'est blessé longuement, ça marchait pas à l'Inter. Derrière, pour rebondir,
ça va être. Non, mais il faut dire quand même les choses.
Vous savez très bien qu'on n'incite jamais à la haine ou à la moquerie quand vous faites un métier public par rapport à ça. Après, il faut être plus performant et jouer.
Non, mais Kurzawa, je le paierais avec mes impôts, j'aurais pas le même discours. Mais aujourd'hui, c'est pas le cas.
Après, pour Kurzawa, là où c'est juste, les supporters du PSG sont un peu taquins, voire un peu plus avec lui, c'est qu'il a jamais voulu partir en fait. En fait, en gros, c'est qu'à un moment donné, il a pas voulu.
Il est parti à Fulham, pardon.
Oui, mais Fulham, alors il n'y a pas de bol, il se fait le genou. Il se fait le genou, voilà. Alors que ça commence à redécoller. Mais sauf que là, sur cette année, à aucun moment, il a voulu se barrer.
Karim, votre premier dessin Faro.
C'est bon ça.
Je gagnais plus quand j'étais footballeur.
On peut dire à Faro d'éviter de me grimer en une personne de 72 ans.
C'est ben non, je trouve que c'est assez mignon. Vous
avez c'est vrai,
c'est pas Kurzawa le fautif. C'est quand même Leonardo, ce génie, qui s'est dit on va le prolonger pour pouvoir le vendre.
Oui, c'est voilà.
Il a ça, tellement bien prolongé qu'il a jamais vendu.
Vous avez raison. À un moment, il jouait. On le prolonge pour le vendre parce qu'il ne restera pas qu'une année de contrat. Vous avez raison de le rappeler. Allez, on joue. Hey, ils sont chauds patates. Vous aussi, on se fait un fight.
Allez.
Être professionnel à la télé, parler
de la télé. Non, mais me dis, pas la pression, c'est ici, il y a la pression.
Voilà, il y a la pression. Le Fight Club, on recherche un joueur mystère. Ce joueur mystère, pour le trouver, vous n'êtes aidé que de son CV. Ce curriculum vitae qui vous permet de le trouver, c'est le premier club pro au dernier club pro. Il peut être en activité, il peut être retraité. On joue en équipe, Alicia, Karim et Bruno dans la même équipe. C'est la team Alicia et la team Karim de l'autre côté, Karim Galli, Olivier Bossard, Adrien Courrouble. On ne souffle pas, même si on joue en équipe. Ce sont des duels, vous le savez, on ne parle pas. Et à la fin, il y aura peut-être un duel final en équipe. Le thème du soir, j'ai été champion du monde avec soit la France, soit l'Allemagne. Puisqu'il y a France-Allemagne qui arrive. Okay, j'ai été champion du monde, soit avec la France, soit avec l'Allemagne. Duel numéro 1, c'est costaud pour attaquer. Adrien Courrouble, Karim Benani.
Oh.
On y va.
Le duel des champions.
Ah non, alors attendez, non, c'est le duel numéro 2, ça. Le duel numéro 1, il est là. Et...
Oui, c'est un Allemand.
Bougez pas. Allez là, elle était restée coincée, la coquine. Ah. Allez là. Voilà. Duel numéro 1, Alicia Karim. C'est aussi spécial.
Duel des champions.
Bah, le duel des capitaines, les gars. Allez, les filles, on y va. Joueur en activité. Champion du monde, soit avec la France, soit avec l'Allemagne. Début de carrière, à Lille. Puis il va à Stuttgart.
Pavard.
C'est là.
C'est incapable de vous dire qui est le plus rapide.
C'est dur.
Non, vous avez crié plus fort, mais ça ne vient pas.
Non, ouais. Je pense que c'est Karine, oui.
Ah bah tiens.
Alors, oui, Benoît Pérez.
Effectivement, je pense que c'est là.
On me dit Karine dans l'oreillette.
Ah bah oui, bien évidemment.
On accepte. Non,
je vous assure. Vous savez qu'en régie.
C'était à ça.
Ça s'est joué à rien.
Bravo, les filles.
Vous avez crié plus fort, je vous l'accorde. Franchement, ça s'est joué à.
Je ne dirai rien.
À un poil de.
Je respecte l'arbitre. Quoi.
Mais oui, franchement, ils n'ont pas le replay, mais ils sont aussi bons que les habits dans le VAR, du coup, on est embêté. Deux numéros de Karim contre Adrien. Vous êtes prêts?
Ouais,
champion du monde, soit avec la France, soit avec l'Allemagne. Joueur retraité. Début de carrière à Stuttgart. Enfin, Stuttgart Kickers, pour être précis. Puis après, il va dans l'autre club de Stuttgart. Puis après, l'Inter Milan.
Lothar Matthäus?
Non, vous ne pouvez plus jouer. Karim, vous avez le temps, puisqu'on ne peut pas donner de mauvaises réponses et rejouer derrière. Après l'Inter, il arrive à Monaco.
Jürgen Klinsmann.
Tottenham, Bayern Munich, Sampdoria et Tottenham.
Matthäus, c'était pas mal.
J'allais trop vite.
Un partout.
Bayern avant.
Vous allez débriefer à chaque fois vos duels. Non, mais n'hésitez pas à faire les deux dames. Duel numéro 3. Bonsoir, Bruno.
Bonsoir.
Bonsoir, Olivier.
Salut, Greg.
On vous affronte maintenant.
Allez.
Bruno Salomon, Olivier Bossard. Joueur retraité, champion du monde, soit avec la France, soit avec l'Allemagne. Il démarre sa carrière à Nantes. Puis il va à Marseille.
Deschamps.
Non, vous ne pouvez plus parler.
T'attends tout le monde, hein.
Puis il va. Au Milan.
Bon, là, tu peux y aller.
Milan AC.
De Seille.
Oui.
Chelsea.
Mais de toute façon, oui, c'est Elgar tout.
Elgar Sparr est arrêté. Faire. Vous savez, il y a pour Deschamps et De Seille, il y a ça. Pour Zidane et Mikou, vous avez qu'à aller Bordeaux. Il y a comme ça quelques joueurs.
Fallait.
Ça nous fait 2-1 pour la team Karim. Alicia, Adrien. Adrien, Alicia. On y va. C'est un joueur en activité que nous recherchons. Les gars, j'ai plus la musique. DJ Dorian. C'est Dorian, notre DJ. Est-ce qu'on peut avoir la musique ou pas? Non, on l'a plus. Bon, tout a claqué.
Vous avez dit, pardon, en activité?
Exactement.
Ouais.
Début de carrière à l'Atlético Madrid.
Griezmann. Oh non.
Ah mais Griezmann,
mon Dieu. Mon Dieu.
C'est bien ça.
Mon Dieu.
Mais c'est une catastrophe ce soir. Ensuite, le Bayern Munich et actuellement
le Paris Saint-Germain.
Le Paris Saint-Germain.
C'est Hernandez.
Oui.
Lequel?
C'est lequel? Non, c'est bon, c'est bon. Il
lequel, c'est Hernandez. Il y en a qu'un seul qui joue au PSG.
C'est pour ça que j'ai dit ça.
Je choque, je suis fatigué.
2-2. Ça va, Adrien?
3 sur 3, Adrien, on n'est pas bien là.
Je suis fatigué.
C'est pas le bon jour, quoi, d'être fatigué.
Ça arrive.
Karim.
Oui.
Olivier Bossard.
Ah, je l'apprécie beaucoup.
Tout le monde aura 3 duels, bien sûr, je le précise, je le rappelle. On cherche un joueur retraité.
J'aime bien ça.
Qui démarre sa carrière au Kickers Offenbach.
Ah, mais bien sûr.
Puis il va à Munich 1860. Puis il va au Werder Bremen.
Bon, c'est dur.
Klose ?
Non, vous ne pouvez plus bouger.
C'est bien
joué.
Il fallait attendre. Il va à l'AS Rome. Et de là, il arrive à l'Olympique de Marseille.
Ah, ben Rudi Faller.
Rudi Faller, bien joué. Et le Bayern, les Marseillais. Mais bon, ça se tente. Hein,
on joue sur les fautes. Ouais.
3-2, merci. C'est serré. Hein.
Sympa.
Alicia, il y a beaucoup d'intensité.
Là. Bon,
personne ne joue sa vie.
Je m'excuse.
Vous le dire. J'aime beaucoup ça. Ça, c'est bien. C'est bien. Ah oui, on souffle carrément.
Je suis stressé.
Non, oui, il nous a mis la pression d'entrée.
Eh bien, des hauts pour Alicia, s'il vous plaît, parce que là.
Non, ça
là,
marche.
C'est incroyable.
Bruno
Salomon, Karine Galli. Duel numéro 6. 3-2, Karine, pour égaliser.
Voilà.
On cherche un joueur champion du monde, soit avec la France, soit avec l'Allemagne. C'est un joueur retraité.
Allez, Bruno.
Début de carrière au Sporting Toulon. Champion du monde, j'ai.
Putain.
Puis il va à Hier FC.
Ah.
Puis il continue à Meaux. Et là, il arrive à Laval. Une fois à Laval.
Le bœuf.
Oui,
bravo.
Strasbourg, Chelsea, Marseille, Al-Sadd, Al-Wakra. Bravo.
Fort.
Ah ouais, fort. Alors, Strasbourg, fort. Pas évident.
Bien, ouais, bien joué.
4-2.
But à
Alicia.
But à Laval.
Olivier.
À Laval.
Olivier, Alicia.
Alicia.
C'est un joueur en activité qui démarre sa carrière au Hertha Berlin. Puis il va à Hambourg. Mmh. Puis à Manchester City.
Ah, c'est attends, je vais attendre. Attends.
Ouais, c'est super bien ça.
Pardon.
Il va au Bayern Munich.
Gundogan.
Non, vous pouvez plus.
Attends,
après Bayern, il arrive à Lyon.
Là, tu l'as.
Oui, là, c'est bon, là.
Et après, il repart et là, il joue à la
Serie. Oh non, il nous a dit qu'il avait un trou.
Défenseur, oui, très
ça.
Grand.
Oui, c'est ça.
On n'aide pas. On regarde.
Enfin, il l'aura pas.
Mais vous laissez 5 secondes.
Là, il est tombé face à Messi.
Oui, c'est lui.
C'est bien.
5.
On regarde, moi je regarde. J'observe.
4.
5 secondes les plus longues de la Terre.
J'ai envie de lui souffler.
1.
Vous ne l'avez pas.
C'est
la langue. Ben oui, c'est dur.
Alors, je précise qu'on joue pas au Time's Up et que la description ne marche pas.
C'était lui.
Il est grand.
Il est tombé face à Messi.
Ouais, c'est vrai, totalement lui.
C'est vrai que c'est une des
c'est lui, c'était lui.
C'est dommage que t'aies pas eu son nom.
Karine Galli. Karine, va falloir marquer ce point-là.
Bon, on a gagné.
Il va falloir terrasser. Ah non. Il y a duel 8 et 9. Et après, possiblement le 10.
Oui, c'est vrai.
Non, c'est pas gagné, non.
Ah.
Karine contre Karine. On recherche un joueur champion du monde retraité. Il démarre sa carrière à Toulouse.
Ah, mais encore un Français.
Puis il va à Guingamp.
Candela.
Oui.
Ah ouais. Pas mon os.
Parce que si je dis Marseille,
c'est Barthez.
Moi j'attendais le Marseille.
Ah oui, bien sûr.
Bravo. Moi j'attendais un Allemand depuis tout à l'heure.
Oui, bon, ça pouvait pas être des Allemands. Ne regarde pas Karine. Toulouse, Guingamp, la S-Rom, Bolton, Udinese, Sienne, Marquette, Giovanni et bon, Sienne et Messine. Ah, c'est pas fini. La balle d'égalisation pour Adrien Courrouble face à Bruno Salomon qui a la balle de match.
Non.
Sinon, allez, c'est le team contre team à 4-4. Si jamais personne ne trouve, c'est une victoire pour Alicia, Karim et Bruno. Adrien, si vous voulez faire revenir votre équipe, c'est maintenant. Je rappelle, la description ne compte pas. Champion du monde, soit avec la France, soit avec avec l'Allemagne. Joueur retraité, il démarre sa carrière à Mönchengladbach.
Attends.
Chut.
Je m'inquiète.
Puis il va au Bayern Munich. Et de là, il va à l'Inter.
Lothar Matthäus.
Oui.
Yes.
J'ai eu très peur quand même.
On sait jamais, il fallait
on y est. 4-4, ça va se jouer maintenant. Il n'y a pas besoin de savoir si on met en jeu. Ils sont à égalité. C'est maintenant le all-in. Tout le monde joue, mais votre réponse engage votre équipe et vous n'avez pas le droit de souffler. On recherche un joueur champion du monde, soit avec la France, soit avec l'Allemagne. Tout le monde joue, c'est un joueur en activité.
Ah, en activité, oula, merde. Ah,
j'aime pas ça.
Il démarre sa carrière à Cologne. Ah, merde.
Podolski.
Podolski. Podolski.
Yes.
Oh, il est beau.
C'est comme ça.
Olivier,
c'est trop chaud.
Bravo.
Bravo. Voilà, ça, c'est beau parce que...
Bravo. Moi, j'ai attendu que dira toute la soirée. Il est jamais sorti.
Bravo, félicitations. Il y avait 4-2.
Il y avait 4-2. Il y avait pas
Kedira. Regardez, la défaite qui fait du mal à un homme. C'est dur.
Ah, c'est beau, la Podolski.
Bravo, bravo sur Podolski. Et bravo, Olivier Bossard.
Bien
vraiment,
sûr.
Si vous avez une soirée mime, ouais, une soirée description, vous voulez jouer à Pyramid of Time, vous appelez Olivier Bossard. Il vous aidera.
C'était
bravo,
bon,
n'hésitez pas.
C'est autre chose. Voici le zapping préparé ce soir par Sacha de Persa.
Peut-être maintenant à ce niveau-là, entre guillemets.
Magnifique course.
Ah oui, parce que la volée était très bien déposée à la part de l'Italien.
Il ne doit pas couvrir son terrain, hein, Berrettini.
Balsamo. Cross comes down, could be Chewinga. And it gives PSG a goal to put them back ahead. Denied earlier in this second half.
Turns it over. Good job by Jason Wallace, sticking his hands in there. Fuck this. My goodness.
Défense.
La
quel
grinta, la grinta, Greg, la grinta argentine. C'est parti très très fort à Yalislen. Regardez cet envolé.
Ah, touchdown.
Oh là là là, comme il attrape ce ballon, c'est impressionnant.
Just nobody stepping in front of him, and he says, you know what?
It's given straight back to the Socceroos by Hassan Sour, and Bacchus. And Bacchus has killed one in at the ground where he made his name with Western Sydney Wanderers. Did he mean it? I don't think anyone cares. It's his first international goal. And it's a priceless early lead for the Socceroos.
Brilliant. Just brilliant.
Et encore une petite maladresse, attention, ça va aller très vite de l'autre côté. Hon qui récupère ce ballon, décidément c'est son temps fort à lui. Et ça va passer, c'est pareil qui prend l'avantage à 10 secondes de la fin.
21-10 here in the third. Harden accelerates. Kawhi catch and shoot 3. Rebound back top to
yep. Comes the ball, Kamawaku gets it away. The volley will come back in and goodness me, it is a wonder goal. It is a thumping volley from all of 30 yards from Brajkovic. And Croatia.
That one is even strength. Marchman saw a collision coming. Now it's Duchesne. He charges it. Sagan, he scores! Welcome back, Tyler Sagan. Oh, this pass borders on indecent.
A buscar Verón, ataca Oro, metió una pelota bárbara para Romero, se viene Argentino, se va, Romero lo tiene, viene. ¡Gol!
Andjassi qui ressort sur Nadir Ifi face à Guillaume Grotzinger. Il va se lever, Nadir Ifi. Il va se lever dans le corner, Nadir Ifi. Il va se lever! Mais arrêtez-le!
Il est pas bien.
Peut-être pour aller ouvrir le compteur de l'équipe Cofinis à la lutte avec Marine Vandenberg. Brian Cocquart va-t-il tenir face à Vandenberg? Le retour de Lippins. Vandenberg qui s'impose. Arne Marit qui doit prendre la deuxième ou troisième position. La victoire pour la formation IF. Ça passe pas loin encore une fois, mais ça n'est toujours pas la bonne pour Brian Cocquart battu.
Allez, c'est l'heure de la première partie de la petite lucarne. Pierre-Antoine Damcourt qui fait son entrée. Et juste après, on se demande à sa main, il fait une grosse.
Ça va tout le monde?
Salut.
Oh là 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 là. Non, mais regardez pas, j'ai reçu un texto là de. Les salaires des stars de la chaîne L'Équipe. C'est intéressant. Hein. Alors, ben, j'ai des chiffres. J'ai, regardez, Olivier Ménard, ouais. 6 millions.
Ah ouais.
Par mois. La différence entre Messaoud Ben Terki et Greg Hache, c'est faut vous battre un peu mon gars, Hugo, hein, parce que Karine, c'est pas mal, Karine, pas mal. Vous avez des tickets resto avec?
Non,
non, pas de tickets resto.
Vous avez des fausses infos, je pense CDI, moi.
Ah,
là, c'est faux.
Ah ouais, ah oui, c'est ça. Et Karim Benani. Aussi,
moi, je
fort,
paye pour venir.
Aussi fort en jeu qu'en négociation. C'est vous payez pour venir, magnifique.
Je suis là pour l'amour du jeu.
Et ben, comme Alicia, pour l'amour,
pour
l'amour du jeu et de la tablette. Les amis, on va parler coaching gagnant. Vous savez, des fois, les coachs ont une idée. Ils disent, allez, ce joueur, je le sens bien, il rentre. Et là, sans vanne, bah, il a le pif. Allez hop, tu rentres. Il a l'air très motivé, le garçon. Hop. Ça, c'est du coaching gagnant. Mais oui, voilà, c'est ça qu'on veut voir.
Est-ce qu'il tombe, moi, avec tes bêtises?
Bah non, vous savez, des fois, on passe un peu des trucs sérieux, parce qu'on n'a rien trouvé d'autre. Il y a aussi. Non, non, mais il n'y a pas de problème, il n'y a aucun problème.
C'est ton salaire.
Ah oui, ça. un petit 2-en-1, ça faisait longtemps, un petit 2-en-1.
Ouais.
Et ben celui-là, on ne le verra pas au JO, ce sport. C'est un 2-en-1 entre le saut à la perche et le relais. Et on n'a pas compris le délire. Ouais, je comprends pas.
Ça m'angoisse.
Voilà. On n'a pas compris. Je sais pas.
C'est un peu dangereux quand même.
Ouais, je pense qu'ils n'avaient pas les témoins. Ils se sont dit, bah tiens, hey, prends les paires de 2m50 là, ça va être nickel. Ouais, et cours comme ça.
Et donc tout à l'heure, tu reviens comme ça à
20h20. Ouais, je reviens avec
20h20,
la perche,
puisqu'on aura 20h30, vous avez les qualifiers multiplex. Des qualifiers pour savoir qui rejoindra l'Euro, les trois voix, la voix A, la voix B, la voix C, à vivre sur la chaîne L'Équipe avec Messaoud Ben Terki et donc son gigantesque salaire. On va maintenant écouter Aurélien Tchouaméni nous parler de ce match France-Allemagne.
Ah, pour moi, ça représente beaucoup. J'ai joué contre Kroos, Rudiger. On s'est pas mal chambré lors des dernières semaines d'entraînement, donc ça va être un match important. Concernant l'Allemagne, c'est une grande équipe. On le sait. On a juste à regarder le nombre d'étoiles qu'ils ont sur leur maillot. Une équipe historique. Aujourd'hui, ils ont des joueurs qui jouent dans les plus grands clubs du monde. Ils ont connu une période de flottement, une petite période de moins bien, mais je suis sûr qu'ils vont être, ils vont avoir l'esprit revanchard, surtout avant un championnat d'Europe chez eux. Donc il va falloir faire attention à eux parce que ça peut être un gros prétendant pour la victoire finale.
Alors je vous pose la question, vu que l'Allemagne est un petit peu moins bien en ce moment, est-ce que c'est toujours une immense affiche, oui ou non, France-Allemagne? Ça dit quoi sur vos ardoises? Mais bien sûr, oui,
y a.
Pour Karine, mais oui aussi pour Bruno. Bon, j'aurais pas de débat là, mais on va en parler quand même. Oui, et de l'autre côté pour Karine, évidemment. Voilà, sur un autre point, Olivier Bossard. Hein. Et immense non. Ah ouais,
bon, j'ai vu que ça mettait oui partout, alors par esprit.
Karim, pardon, je ne vous ai pas encore fait commencer. Oui, pas de débat pour l'historique.
Non, mais il peut y avoir débat. Il peut y avoir débat parce qu'il y a un vide générationnel aujourd'hui en Allemagne, très clairement. Quand on regarde le différentiel entre les deux effectifs, je me suis amusé à regarder ça cet après-midi. Oui, j'ai des passions.
Non, vous travaillez, quoi.
Mais c'est pour travailler.
Vous préparez l'émission, quoi, c'est bien.
Franchement.
Ça change.
Dans le 11 titulaire de l'équipe de France, je pense que Deschamps ne prend pas un seul Allemand. C'est-à-dire qu'il ne prendrait pas un seul joueur de l'Allemagne pour le mettre titulaire aujourd'hui. Tu prendrais qui?
Gundogan.
Je crois pas. Je crois pas. Franchement, et pourtant, c'est un super joueur, évidemment. Mais quand tu regardes ce que tu as, le matos que tu as aujourd'hui, Griezmann, Rabiot, Tchouaméni, moi, j'enlève pas un des trois pour mettre Gundogan. Franchement.
Kimmich sur un côté en défense.
Même pas.
En
tant qu'aujourd'hui, à l'heure où on se parle.
Il a joué latéral, il le fait bien.
Ouais, mais.
Et ben, vous voyez, je regrette qu'on n'ait pas posé cette question. On serait marré. Mais on y rentre dedans, on sait très bien.
Et donc, voilà pourquoi, évidemment, immense affiche. Là, je rejoins peut-être un peu Adrien. Immense est un peu un terme
c'est
fort.
C'est pour ça qu'on part sur
mais
ce mot-là. Hein.
C'est l'Allemagne. Et l'Allemagne reste une place forte du foot européen et mondial. C'est la même chose avec le Brésil, quand le Brésil a un vide générationnel, oui. Avec l'Argentine, oui. Avec l'Espagne, avec l'Angleterre. Il y a eu des trous de génération dans ces équipes-là. Et pourtant, quand vous avez un match contre ces équipes-là, eh bien, les joueurs de l'équipe de France sont toujours motivés d'une manière supérieure que si elles jouaient contre la Grèce, contre la Bulgarie ou la Roumanie.
Et on va se faire mal avec vous, j'ai l'impression.
Mais oui, parce qu'on va convoquer l'histoire des France-Allemagne dans l'histoire marquante, il y en a eu. Et un particulièrement, 8 juillet 82, tout de suite, quand je vous dis ça, la nuit de série. Ouais. Match culte, RFA France, demi-finale de la Coupe du Monde.
Chialé, hein.
Peut-être le match le plus marquant de l'histoire du foot. L'équipe de France de Platini battue au tir au but après avoir mené 3-1 au début de la prolongation. Point de départ d'une rivalité absolument incroyable entre ces deux nations. 25 juin 86. Alors là, c'est pas forcément un match marquant. 4 ans plus tard, on remet ça. Demi-finale de la Coupe du Monde au Mexique. Mais l'Allemagne enfonce une nouvelle fois le clou, nouvelle victoire des Allemands avec notamment un but de Rudi Völler qui était dans le Fight Club tout à l'heure. 4 juillet 2014, France-Allemagne, quart de finale de la Coupe du Monde au Brésil. Et à la fin, c'est toujours l'Allemagne qui gagne. Victoire 1-0 avec un but de Mats Hummels, Griezmann, Loïc Rémy, Benzema encore, que l'on peut voir sur cette une de l'équipe complètement sonnée. Et juillet 2016, demi-finale de l'Euro, la fin de la malédiction grâce à un doublé de Griezmann, l'extase titre d'équipe, match inoubliable des Bleus qui battent enfin les Allemands dans un tournoi majeur, première depuis 1958.
Eh oui, ça faisait très très loin. Non, j'avais pas eu France-Allemagne, j'étais un chouïa petit, mais en 86, après le France-Brésil qui était fabuleux à Guadalajara, c'était la douche froide. Et
comment
là,
vous dites
c'est Guadalajara, je sais pas.
Oui.
Vous vous moquez de moi.
C'est très bien dit. C'est très bien dit.
Beaucoup.
C'est le Mexique.
Merci, regardez, tiens, bravo. Alicia, c'est le moment de vous aller sur le. Ça marche le bingo.
Ça va pas marcher. Pas.
Les gars, il faut que le bingo le marche, sinon je suis ridicule.
Bingo.
Merci beaucoup, Alicia, vous êtes sur le banc pour le plaisir. Olivier Bossard qui dit au revoir, Alicia. Elle est vraiment très sympa. Je fais un petit coucou, au revoir. Oui, France-Allemagne, c'est un France-Allemagne, quoi. Ça bouge pas. C'est demain, enfin, ce week-end, pardon, vous avez envie de le voir.
Ah, mais carrément. Franchement, si ça, c'est pas une affiche, je vois pas ce que ça. Ça peut être d'autres. Alicia l'a dit, historiquement, il y a tellement d'histoires autour de France-Allemagne et même des France-Allemagne plus insignifiants. On s'en souvient. Moi, je me souviens de Lacazette et d'Anthony Martial qui ont marqué récemment contre.
C'est vrai. Oui, il a fait vrai. Une belle carrière en bleu après la guerre.
Mais là encore, enfin, il va y avoir un stade plein. Il y a des stars partout. Enfin, on parle quand même de Kroos face à Mbappé, face à Kimmich. Ça reste une. Je trouve que c'est des matchs comme pour France-Angleterre, il y a toujours un parfum particulier. Et puis Didier Deschamps, c'est quand même la 10e fois qu'il va les rencontrer depuis qu'il est sélectionneur. C'est peut-être pas un hasard aussi de vouloir se frotter à ce.
Puis c'est chez eux cet été.
Et puis c'est chez eux. Et puis il y a quand même de l'enjeu. L'année dernière, on perd un seul match, c'est contre l'Allemagne. Donc voilà, les Allemands, ils sont à 3 mois de leur Euro. Ils ont aussi des choses à voir et à jouer. Franchement, il y a plein de bonnes choses autour de ce match.
N'empêche, les Allemands restent, mine de rien, sur des résultats qui sont plutôt mauvais en grande compétition. Si on regarde justement depuis l'Euro 2016, où ils avaient atteint les demi-finales, éliminés par l'équipe de France, on le rappelle, Coupe du Monde 2018, éliminé en poule, Euro 2020, 8e de finale, Coupe du Monde 2022, éliminé en poule. Et puis les derniers résultats de l'Allemagne également sont très mauvais. Sur les dernières rencontres jouées depuis la Coupe du Monde 2022, l'Allemagne n'a gagné que 3 matchs pour 6 défaites. Regardez le nombre de buts marqués par match, regardez le nombre de buts encaissés par match. Le différentiel est énorme avec l'équipe de France. Et vous parliez des grands noms. Moi, je vois surtout des grands absents dans cette équipe d'Allemagne, puisque Goretzka, Gnabry, par exemple, n'ont pas été retenus. Hummels non plus. Brandt également. Leroy Sané est suspendu. Manuel Neuer blessé. Bref, pas l'impression que ce soit une très grande affiche quand je vois ces noms-là.
Ah ouais, c'est vrai. Non, ça fait quand même beaucoup de monde en moins.
Mais on s'en fout. J'ai fait un cocorico, mais on s'en fout que cette équipe d'Allemagne, il faut juste les battre. Moi, je suis de 82. Moi, je me rappelle de là, j'avais 6 ans. Et depuis ce jour-là.
Vous aussi, vous en souvenez à 6 ans?
Ah, bien sûr.
Moi, c'est à 8 ans.
Comment c'est le match?
J'étais en Espagne. Ben, j'ai écouté, c'est l'un des premiers parce que j'ai écouté à la radio. Ce jour, c'est vrai. Et non, mais vraiment, et très franchement. Nous aussi, on a eu un trou générationnel. Nous aussi, pendant des années, on affrontait l'Allemagne et on se faisait rouler dessus.
Ça, vous m'avez convaincu, je suis avec vous.
Voilà. Donc, allons-y. C'est pas possible. Samedi, il faut y aller. Non, mais en plus, derrière, tu dois marquer ton territoire. Non, mais tu dois marquer ton territoire par rapport à l'euro. Tu dois marquer ton territoire par l'euro.
Bah, si. Est-ce que vous pensez vraiment, alors c'est intéressant ça, une fois qu'on arrête les vannes, vous pensez qu'une victoire contre l'Allemagne aura un impact pour l'euro à venir dans 3 mois?
Évidemment.
Non.
Bah, attends, à trois mois d'une compétition, tu bats le pays hôte? Bah, je suis désolé, tu les marques au fer rouge et tire-toi. Enfin, je sais pas, moi, je trouve ça important.
Alors, vous pensez que c'est une
belle affiche, important.
Mais pas au point que ça puisse être un tournant avant l'euro qui arrive.
Non, parce que les problèmes, de toute façon, les problèmes de l'Allemagne sont énormes. Et ce qui se passera samedi soir, ça n'a pas changé. Il y avait un papier d'ailleurs dans le Parisien il y a quelques jours qui disait que même les Allemands s'intéressaient moyennement à cet euro qui arrivait dans leur pays parce que ils sont très inquiets. La Coupe du Monde 2006, ils l'avaient parfaitement bien préparé. Et là, il y a des mauvais résultats, il y a un intérêt qui est moindre, il y a des joueurs qui ne sont pas en forme, il y a des changements de sélectionneurs, il y a des problèmes aussi au niveau de la Fédé, donc c'est compliqué.
Il faut se méfier des trous de génération. L'Italie avait un trou de génération avant de disputer le dernier euro et ils l'ont gagné. Donc,
et ils n'étaient pas du tout favoris.
Mais c'est un peu l'exception qui confirme la règle.
Oui, mais bon, ils l'ont gagné, ils ont battu
Non, mais ils ont quand même aussi des gros soucis, notamment en défense et devant. Donc, quand t'as pas un tueur devant et quand t'as des problèmes défensifs, c'est rare que t'ailles très très loin, mais ça reste quand même une affiche magnifique. Moi, juste revoir Kroos samedi, ça fait mon bonheur. Et Thomas Müller, je l'aimerai toute ma vie.
Ah bah ouais, c'est parfait. On m'a dit, petite info sympa, je cite le chef d'édition dans mon oreillette.
Oui, c'est vrai que c'est sympa.
Adrien Courrouble. Alors Adrien, attention, on veut du bonheur.
Ah bah, bon, ça concerne l'Allemagne, sachez que l'Allemagne va changer à partir de 2027 d'équipementier. Exit la marque à trois bandes, c'est quand même historique parce que c'est une marque.
C'est pas sympa, c'est historique.
C'est une marque allemande, ça fait 70 ans depuis que cet équipementier est en capacité d'équiper l'Allemagne.
C'est qui maintenant?
C'est la marque à virgule.
La marque à virgule. C'est un scandale.
Ouais. Disons que ce sera Nike à la place d'Adidas, on va citer Puma.
Reebok. C'est de me débrouiller pour faire un truc avec la virgule, machin.
Non, mais vous avez le droit à trois marques.
Bien sûr, bon.
Je vous expliquerai à la télé. C'est très bien, Adrien.
Se perdre complètement
l'Allemagne. Il faut que l'Allemagne arrête Adidas.
Rien.
En vrai, c'est une info vraiment.
70 ans.
Tous les amoureux.
70 ans.
Il faut citer deux marques du coup là.
Oui, alors Nike et Puma. Reebok. Et puis alors les autres.
Je sais qu'on va parler naming après de la Ligue 1. Je sais pas comment on va faire, mais il va falloir aussi.
Alors vous savez quoi?
Il en connaît rien.
J'ai anticipé sur les fast food. Je suis très très au point. Dans un instant, qui joue le plus gros? France-Allemagne du côté bleu. Est-ce que ce sera Warren Zaïre-Emery? Est-ce que ce sera Pavard? Est-ce que ce sera Thuram? Est-ce que ce sera d'autres joueurs? Vous allez voir, même ou pas Mécano, qui a des difficultés en club. Ils ont leur avis. L'instant Pino, on aura également le foutoir avec beaucoup d'images à vous proposer. Et puis l'œil d'Alicia, le PSG plus raisonnable au niveau des salaires. Est-ce que c'est forcément bon signe? La petite lucarne, on jouera. Et puis ce soir, c'est l'événement. Le multiplex, encore du foot en clair et gratuitement sur la chaîne équipe. Les barrages pour l'Euro demi-finale. La voie A avec la future adversaire des Bleus, soit la Pologne contre l'Estonie, soit le Pays de Galles contre la Finlande, puis la voie B, Bosnie, Ukraine, Israël, Finlande, et voie C, Grèce, Kazakhstan, Géorgie, Luxembourg. On vous montrera des images d'ailleurs dans un instant. A tout de suite. On est de retour dans l'équipe de Greg. Merci d'être avec nous en direct sur la chaîne L'Équipe. Regardez ce soir, on vous propose du foot en clair avec de l'enjeu. Le multiplex des barrages de l'Euro 2024, les qualifiers. Les voies A, B et C, demi-finale. Pologne, Estonie, Pays de Galles, Finlande, Bosnie, Ukraine, Israël, Finlande. Et puis dans la voie C, Grèce, Kazakhstan et Géorgie, Luxembourg. Il y aura deux vainqueurs, la finale derrière. Et pour les adversaires des Bleus à l'Euro, ce sera soit la Pologne, soit l'Estonie, soit le Pays de Galles, soit la Finlande. Rendez-vous tout à l'heure. Les Bleus qui joueront samedi contre l'Allemagne. Adrien, alors hier, on a vécu l'entraînement direct. Et Bertrand Latour a été l'expert des chasubles pour une compo probable.
Comme d'habitude, souvent, il a le regard juste sur la composition d'équipe de l'équipe de France à venir. Cette fois-ci, cette composition d'équipe s'alignerait comme ça, avec Brice Samba dans les cages, Upamecano, Pavard en défense centrale, Pavard, donc qui serait confirmé comme un axial, Koundé à droite, Hernandez à gauche, milieu de terrain composé de Tchouaméni, Zaïre Emery et Rabiot, privé, on le rappelle, d'Antoine Griezmann, devant Marcus Thuram préféré à Randal Kolo Muani, Dembélé et Mbappé sur les côtés.
Alors, on avait justement demandé en début de semaine si Zaïre Emery était le remplaçant idéal. A priori, il le fait jouer parce qu'il est offensif ou pas, Mécano en difficulté. Et là, Thuram est devant. Qui joue le plus gros? Regardons vos réponses avec cette compo tant attendue et étonnante. Bah, c'est ou pas Mécano, justement. Pour Alicia, ce sera Tutu, donc c'est Marcus Thuram, on est sur la familiarité.
C'est pas Zaïre Emery, elle.
Là, c'est Warren Zaïre Emery, WZE. De l'autre côté, même choix, ce sera Marcus Thuram. Karim Galli, ce sera ou pas Mécano, pareil, pour Olivier Bossard, et ou pas Mécano aussi.
Alors, Thuram pour Karim.
Ah, oui. Karim, elle a mis Thuram.
Ah,
j'ai dit ça?
Non, vous avez dit ou pas Mécano.
Non, ou pas Mécano, c'est Olivier. Non, attention, car Mélanie.
Non, mais.
Vous avez mis un déjeuner arrosé ou.
Pas du tout.
À l'eau claire, hein.
Bien sûr.
Karine Galli, bonsoir.
Oui, c'est moi.
Oui, bonsoir. Marcus Thuram.
Tout à fait. Oui.
Mais qu'est-ce que vous avez tous ce soir? Vous démarrez avec 5-6 secondes de décalage.
Non, je réponds. Oui. Donc, Marcus Thuram, parce qu'on le sait que depuis la finale de la Coupe du Monde, Deschamps avait essayé de mettre Kolo Muani en neuf. Ça n'a pas marché. Il a enfin compris, j'ai l'impression, que Kolo Muani en neuf, ce n'était pas une possibilité qui fonctionnait. Donc, Marcus Thuram, il a une carte carte à jouer, une carte importante à l'Inter. Il réalise des belles performances, il marque des buts. Attention quand même ce qui s'est passé lors du match entre l'Atlético et l'Inter, parce que c'était un très gros match de Ligue des Champions et il a raté aussi l'opportunité de qualifier son équipe, donc c'est important. Et parce que en équipe de France, il n'a pas encore de statistiques. C'est 16 matchs en bleu, 16 sélections en bleu, seulement 3 titularisations. Donc il a encore tout à prouver. Et s'il venait à marquer des points face à une grosse nation, et pour Didier Deschamps, même une Allemagne amoindrie, ça ne sera jamais la Colombie, ça peut évidemment être important en vue de l'Euro.
Il réalise une saison énormissime avec l'Inter. Évidemment, il y a eu cette occasion loupée, mais si on prend un peu de recul sur sa saison avec l'Inter, eh bien, il est déjà à 12 buts, c'est le 5e meilleur buteur de Serie A. 8 passes D aussi, ça montre qu'il peut être décisif, 2e meilleur passeur de Serie A. Lui qui, vous le disiez, a peu de vécu, hein, Karine, en sélection. 16 sélections, 3 titularisations seulement, 2 buts marqués. Il n'avait jamais été titulaire lors de la Coupe du Monde 2022. Il avait disputé seulement 9 minutes à l'Euro 2021. Il faut commencer peut-être aussi à se dépêcher pour lui, parce qu'on a l'impression que c'est toujours un peu le petit jeune Marcus Thuram, sauf qu'il a déjà 26 ans, et que du coup, si on regarde un petit peu par rapport aux autres attaquants, bah, il est plus vieux que les Moussa Diaby, les Randal Kolo Muani, encore Ousmane Dembélé. Il a juste un an de moins que Kingsley Coman.
Mais il est quand même plus jeune que Olivier Giroud.
Il est plus jeune qu'Olivier Giroud, je vous l'accorde celui-là.
Merci bien.
Tout le monde est plus jeune
que Olivier Giroud, c'est pas faux.
Même vous.
C'est, oui, non, malheureusement. Karine Benani, vous allez poursuivre donc, sur Marcus Thuram. Moi, ce qui m'intéresse, Karine a dressé un profil très juste. Elle a évoqué ce raté voilà, contre l'Atlético Madrid. Il y a 5 matchs où il ne marque pas alors qu'il est parfait depuis le début de la saison. En fait, il n'y a pas une concordance des temps entre sa titularisation et puis sa forme du moment.
Mais moi, j'aborde cette question-là, qui joue le plus gros. Et quand je dis Thuram, c'est pour une place de titulaire devant Giroud. Parce que dans l'esprit, à mon avis, de Deschamps, sur une grosse compétition comme l'Euro...
Ah oui, vous pensez que c'est Giroud?
Giroud, à mon avis, les faveurs du sélectionneur.
Vous pensez qu'il est devant?
Ce qui s'est passé sur la Coupe du Monde, je pense que Kolo Muani flop total au Paris Saint-Germain et que Deschamps, dans son esprit, se dit « Bon, ben, pour commencer une compétition, j'ai besoin de certitude, donc Giroud ». Mais la saison qu'est en train de réaliser Marcus Thuram dans son ensemble, à mon avis, fait réfléchir le sélectionneur. Honnêtement, ceux qui ont connu Marcus Thuram à ses débuts, à Guingamp, à Sochaux, moi, jamais j'aurais cru qu'il aurait pu être un des meilleurs buteurs de Serie A.
Et si je vais vous dire, Karim, si on est honnête, pardon, je vous laisse refinir, mais que ce soit les destins de Kolo Muani, Giroud ou Marcus Thuram, aucun des trois,
totalement,
on peut imaginer.
Totalement, totalement. Mais Giroud avait très vite le sens du but, même en Ligue 2. Thuram n'a pas eu le sens du but, il était même décalé sur un côté au début, c'était pas vraiment un buteur. Là, le voir buteur, le voir, et moi ce qui à mon avis marche aussi dans l'esprit de Deschamps, c'est son altruisme. Il est vraiment altruiste et c'est lui qui fait briller Lautaro Martinez cette saison. Si Lautaro Martinez est si fort cette année, c'est parce que Marcus Thuram l'est aussi, et ça, dans l'esprit de Deschamps, ça peut aussi être dans sa tête une association Mbappé-Thuram devant, performante pour mettre Mbappé dans les meilleures conditions.
Alors, on va partir au milieu de terrain. Warren Zaïre-Emery sera sans doute titulaire. On avait ce débat en début de semaine, en pensant à ses stats offensives, le nombre de buts, le nombre de passes qu'il avait, sa capacité à se projeter, son bon pied par rapport à Camavinga, en remplacement de Griezmann, au moins numériquement. C'est pour ça que pour vous, il joue gros ce soir, mais il joue gros de quelle manière? On sait bien que les 3 places de titulaire pour l'Euro sont bouclées, non?
Il joue gros pour être de l'aventure, en fait. Pour être...
Vous pensez vraiment qu'il y a un doute?
Tout à l'heure, en début d'émission, pour ceux qui n'étaient pas là, j'ai évoqué le fait que moi je préférais le voir aux Jeux Olympiques qu'à l'Euro. Oui. Ça, c'est un avis perso. Mais après, effectivement, si on se met en tête de Didier Deschamps, voilà, le but. En fait, Warren Zaïre-Emery, c'est un petit coucou. C'est-à-dire que là, il va prendre sa place, il va s'installer, et puis après, pour le bouger, c'est ce qui est en train de se passer au Paris Saint-Germain. Il bouge plus.
Là, il y a 3 monstres quand même.
Non, mais il y a 3. Oui, mais les monstres, il va aller les chercher, il va aller les matcher. Donc là, le but, c'est de monter, de faire voir sur un match, 90 minutes. Tout le monde avait dit, ouais, Gibraltar, il marque son but. Bon, c'est Gibraltar. Derrière, il se blesse. Il revient, il reprend sa place. Il est titulaire aujourd'hui. Enfin, il sera titulaire sûrement samedi. Moi, j'ai envie de le voir sur ce gros match, même si c'est une équipe amoindrie. Et je pense qu'en fait, il va marquer ses points, les points qu'il lui faut pour valider son billet avec l'équipe de France pour être dans la rotation.
Moi, j'aime bien l'idée du coucou. Je trouve ça très marrant. En plus, Karine, ça lui plaît. C'est un petit animal. C'est super. Le petit coucou qui fait sa place, qui fait son nid. Mais là, vous avez vraiment un doute. Qui a un doute ici? Je pense personne sur le fait qu'il fait partie de la rotation de la liste des 23.
Mais il fait partie de la RMI.
Personne ici a un doute sur le fait que Deschamps l'emmènerait pas. M'intéresse.
En fait, il fait partie. Mais le problème, c'est que pour moi, c'est un joueur générationnel. Pour moi, c'est un crack.
Et donc, il va le prendre.
Oui, mais il va le prendre. Mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est le genre de joueur qui peut très bien s'installer à force de prestations. Et là, ce match-là.
Très bon dessin de Faro. On compte sur Zaire Emery, quoi. Mbappé va aussi quitter les Bleus, puisque c'est le destin qu'on annonce au PSG.
C'est ça. Donc,
mais il joue gros ce soir.
Mais en tout cas, il joue gros pour moi samedi pour marquer des points et pour aussi aller bousculer la hiérarchie.
Oui, ça c'est.
C'est ça le truc, en fait.
Très, très intéressant.
Ce qui est intéressant, c'est qu'il a des stats. Warren Zaire Emery, notamment au milieu de terrain, vous le disiez justement, le fait qu'il amène du lien avec l'attaque. Si on compare avec les autres au milieu de terrain à son poste, c'est peut-être le joueur qui a les meilleures stats avec 6 assists, passes décisives distribuées cette saison, 3 buts marqués par Warren Zaire Emery.
Alors avant de finir avec Olivier en défense et Upamecano, on va aller voir les gardiens, l'état des lieux de Mike Maignan avec vous Alicia.
Oui, nouveau coup dur pour Mike Maignan qui n'a pas participé hier à la séance collective des Bleus, touché à un genou déjà face au Slavia Prague en 8e de finale retour de Ligue Europa. Ces derniers jours, il a été préservé, cette fois-ci à cause d'une douleur aux ischios. Mike Maignan, qui, on le rappelle, avait raté la Coupe du Monde avec l'équipe de France en raison de son mollet, des pépins physiques récurrents pour le gardien de l'AC Milan, mais qui n'inquiète absolument pas Aurélien Tchouaméni.
Une inquiétude concernant Mike, les problèmes physiques, ça peut arriver. Et il continue d'être performant, il continue à jouer. Là, je pense que le pépin qu'il a, c'est pas forcément important. Donc, on espère qu'il va continuer à monter en puissance pour être le joueur qu'il est, parce que c'est un joueur incroyable.
Brissamba, pressenti pour le remplacer face à l'Allemagne, lui aussi, il a beaucoup à jouer, du coup, Brissamba.
Pourquoi Upamecano joue gros alors qu'il est titulaire depuis la Coupe du Monde? C'est son état actuel au Bayern qui vous inquiète, Olivier Bossard?
Ouais, il traverse une très mauvaise phase. Il a quand même pris 2 rouges récemment avec le Bayern de Munich. Quand on pensait qu'il allait revenir, il a été mis sur le banc par son coach contre Darmstadt et Mayence là récemment. Donc il va pas falloir en plus rater ce match contre l'équipe d'Allemagne. L'équipe d'Allemagne, c'est quand même une équipe qui, a priori, il connaît plutôt bien. J'aime bien regarder les images qu'offre la Fédé quand les joueurs arrivent là au château, généralement sur les réseaux sociaux. Et là, j'étais marqué, alors je suis un interprète peut-être un peu, mais par l'accueil de Didier Deschamps envers Upamecano. C'est le seul qu'il a pris dans ses bras, qu'il a pris un peu à part. Et j'ai eu l'impression qu'il lui parlait. J'ai eu l'impression que déjà, il était en train de le rassurer quand d'habitude, il est plutôt dans la vanne avec les autres, en train de lâcher une petite vanne sur les vêtements, des choses comme ça. Il ne l'a pas fait avec Upamecano. Vraiment, on a vu cette image. Ça m'a marqué et il ne va pas falloir le rater au moment même où, justement, Pavard est en train de réussir une saison assez incroyable. Il a été énorme contre l'Écosse récemment. On sait que Konaté, a priori, est encore plus stable que Upamecano. Donc, ça va être un vrai test.
Allez, dans un instant, l'instant Pinot, justement. La conf de l'EDG, comment ça se confectionne tout ça, vu par Antoine Pilot, bien sûr. Le foutoir d'Adrien Courbe. Il y a beaucoup d'images, beaucoup de buts à nous montrer, pas Adrien?
Quelques-uns.
Ça se met, vous disiez oui beaucoup.
Oui, énormément.
Voilà. Et on a également l'œil d'Alicia. Le PSG qui a réduit sa masse salariale, en tout cas plus raisonnable. Est-ce que c'est bon signe pour le club? On jouera. Et la petite lucarne de Pierre-Antoine Dampoix. Ce soir, soirée multiplex sur la chaîne L'Équipe, les barrages de l'Euro 2024, les qualifiers. La voie A, les Bleus joueront soit la Pologne, soit l'Estonie, soit le Pays de Galles, soit la Finlande. Des matchs ce soir à suivre chez nous. Voie B, Bosnie, Ukraine, Israël, Finlande. Voici Grèce, Kazakhstan, Géorgie, Luxembourg. Ne manquez pas ça autour de Messaoud Ben Terki. Du foot en clair, passionnant avec des enjeux. C'est ce soir sur la chaîne L'Équipe. Avant le foutoir, beaucoup d'infos à vous donner, notamment le nouveau naming de la Ligue 1. On va en parler. Voici l'instant Pinot. Antoine Pinot nous emmène dans la conf de rédaction de l'émission.
Bonjour à tous. J-2 avant France-Allemagne. Il y a une dernière répétition pour les Bleus avant le premier match à l'Euro contre Mathieu.
Et belle Écosse.
Écosse. Non, ils sont pas dans notre poule, l'Écosse.
Ah bah si, ils sont dans notre poule et je peux te dire, faut qu'on démarre fort, 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 fort. Hein.
Fais voir.
Vas-y, regarde. Écosse.
Mathieu, tu n'es pas allemand. Putain, c'est pas parce que la nouvelle direction est allemande qu'il faut leur lécher les fesses. C'est insupportable depuis 2 semaines. T'es chiant.
Mais
là,
je leur lèche pas les fesses, n'importe quoi.
T'arrêtes pas de faire ça.
Nine, 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 nine. Franchement, je vois pas pourquoi tu dis ça. Ya. Oui. Ma mère. Angela.
C'est Corinne de mère.
Angela, c'est ton deuxième prénom. Elle l'adore.
À vos sujets. Bonne répétition avant l'Euro.
L'Allemagne peut-elle gagner l'Euro? Ça, c'est bien vu.
Les Bleus trop favoris pour l'Euro. Ça, c'est vrai aussi. Ça, c'est bien. Ça.
C'est vrai que c'est 2 favoris. Tu te souviens de la dernière demi-finale?
Ah ouais.
À l'ambiance. Dans la rue et tout, nous, on avait fini à 4 parts.
Qu'il dit plus. Ah ouais. Séville 82.
Quel souvenir. Et on perdait 3-1. Après Gérès, on faisait pas les malins. Qu'est-ce qui se passe? Roumenigue. Et vas-y que j'y vais. Puis après au pénalty, je te cache pas, j'étais serein. Les Michel Panini ou je sais pas qui là, là vous aviez rien, aucune chance.
Mais t'es pas allemand, Mathieu! T'es pas allemand, tu viens de New York, Mathieu. Voilà, New York, Allemagne, rien du tout. Excuse-moi.
Ah bon? Et comment il s'appelle le gardien? Manuel Neuer. Hein? Alors,
rien. Et ça s'écrit pas pareil. Et puis si on revient sur 82, vous nous avez volé la victoire.
On n'a rien volé du tout.
Au choix.
Là. D'accord.
Ouais.
Quelle simulation. C'est incroyable. C'est que ça m'en dégoûtait du foot, ça. On n'est pas à la piscine, quand même. Y aurait eu la barre? Ah bah, ça filait au vestiaire, Baptiston. Y a rien du tout.
Bon, comme vous le savez, Griezmann ne sera pas là, mais c'est tout de même l'occasion de faire un petit bilan, donc j'ouvre ce débat. Top 10 des joueurs français, Griezmann a-t-il sa place?
Là, je suis d'accord avec ce que tu dis, cette élégance, cette technique, ce sens du but, cette chevelure blonde. Là, je suis d'accord avec toi. Klinsmann, meilleur joueur du monde. Là, d'accord. Tu vois qu'on est...
Pas Klinsmann!
Mais il est fort, Klinsmann, il est fort.
Voilà, donc on espère que l'équipe de France va gagner son troisième Euro en Allemagne, c'était...
C'est le quatrième. On a gagné en 96 contre la République tchèque. 2-1. Pirof incroyable. En Munich, on était comme ça dans les rues. Pirof, Pirof, Pirof. Jusqu'à 4h du matin. Je suis attendu, garde de l'Est. Hein? Mmh. Auf Wiedersehen?
Je sais même pas qui c'est. Hervé Dersen.
Merci à Antoine Pino pour l'instant. Pino et bravo. À Mathieu Monnier, journaliste de talent et comédien de talent. Voici le foutoir. C'est pas un nom allemand, c'est un nom américain. On a un nouveau nom pour la Ligue 1.
Vous avez trois noms de fast-food d'abord?
Alors, oui, bien sûr.
Allez-y.
Vous voulez que j'en ai des noms de fast-food?
Allez-y, commencez.
Je veux dire Quick, Burger King et McDonald's. Qui gagne?
Eh bien, on va appeler désormais la Ligue 1 McDonald's. C'est ce qu'a validé aujourd'hui le conseil d'administration de la LFP pour remplacer. Vous avez trois noms de distributeurs de nourriture à domicile par des livreurs en moto?
Alors, Uber Eats, Deliveroo, et il faut m'en trouver un troisième, les copains.
Vous êtes mis tout seul dans la société américaine qui va lâcher en tout cas 30 millions d'euros par an. Pour les trois prochaines années, 90 millions d'euros, donc c'est quasiment le double de ce que se donnait Uber Eats.
Bon, alors le truc, c'est que, évidemment, c'est comme pour les salaires, ça fait beaucoup parler hein, depuis sur les réseaux sociaux, les gens nous en parlent là, dans les couloirs, les trucs. Sur le nom, évidemment, comme c'est pas, voilà, c'est pas ce à quoi on pense tout de suite en association avec le sport de haut niveau, quoi, en fait, Karine Galli. Maintenant, c'est 30 millions d'euros la saison, donc.
Il y avait eu Conforama, non? Ou je sais pas.
Oui.
Voilà. Donc, est-ce que
là, vous mettez dans la sauce pour les trois autres noms, là,
non, mais voilà.
Casto, le roi Merlin.
Est-ce que Conforama, ça faisait penser au foot? Non. Au moins, McDo, tu le manges en regardant un match de foot. Oui, il y a une cohérence. Non, mais moi,
Conforama, la Ligue 2, il y a la pizza aussi.
Oui, c'est vrai.
Moi, ça me choque pas. Et en plus, je trouve que les maillots de Lens qui ont déjà McDo comme sponsor, là, avec le M sur les fesses, là, c'est mignon.
Bon, Thierry Henry, il a été interrogé sur ce nouveau naming de la Ligue 1 et visiblement, il était un petit peu gêné avec Lucas Chevalier.
Franchement, ça m'était égal. Hein. Non, franchement, c'est... Ah, moi, là, par là. Ligue 1 mérite McDonald's, c'est assez proche. Non, en vrai, après, c'est... C'est pas moi qui fais les contrats, ni le coach. Nous, on s'occupe du terrain et puis on essaiera d'être bon.
Voilà, comme ça, t'apprendras capitaine, il faut répondre à ce genre de questions.
Voilà. 90 millions d'euros qui vont aller dans la poche de la Ligue 1. C'est ce qu'on va retenir. Grosse sanction pour le FC Nantes.
Mais, ou plutôt pour ses supporters, suite à l'utilisation massive de fumigène. Ils ont été sanctionnés d'un huis clos total, ce sera contre Lyon le 7 avril, mais aussi d'un huis clos partiel du COP pour les deux matchs suivants. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Nantes ne pourra pas jouer devant son COP, la Brigade Loire, d'ici à la fin de saison.
Ça vous fait souffler quand même, David.
Oui, parce qu'il y a des problèmes bien plus importants. Alors oui, bien sûr, s'il y avait eu un blessé après ce jet de fumigène, mais moi honnêtement, j'ai trouvé ça joli quand ils ont fait ça dans la tribune. Les pénalisés, ils sont déjà un peu mal cette saison. Honnêtement, c'est un avantage pour Lyon. Pour Nantes, là, c'est compliqué de jouer à domicile contre Lyon qui est en pleine bourre, alors qu'ils sont en train de jouer le maintien dans un stade vide.
La Ligue travaille à l'utilisation des fumigènes dans certains stades avec des essais. Il faudrait accélérer les choses et arrêter la supercherie, c'est-à-dire que d'un côté tu utilises ces vidéos ou en tout cas les belles photos, ouais. Et derrière tu mets les sanctions et effectivement dans la lutte au maintien. Nantes, pour le coup, est en train de s'est mis une balle en pied.
Tchouaméni fait un point suite à une vidéo polémique.
D'abord, on va regarder la vidéo qu'il fait en Espagne avec ses coéquipiers Jude Bellingham et Eduardo Camavinga. Ils évoquent notamment deux joueurs. Ils comparent deux joueurs avec la team des Français face à la team de Jude Bellingham. On va regarder d'abord la vidéo.
Les
great guy, bro.
He's a great guy?
He's unbelievable, bro.
We don't care.
Come on, shut up.
We don't care.
But he's better than your boy.
Which one?
Nah, but I'm not.
Please.
Remarqué, les noms ont été bipés, donc forcément en Espagne ça a mis le feu, on s'est dit qu'il comparait Erling Haaland avec Kylian Mbappé. Pas du tout. Mise au point, rectification d'Aurélien Tchouaméni en conférence de presse.
Et ce qu'il faut savoir, et là c'est un scoop, c'est qu'on parlait pas de Kylian, on parlait pas d'Erling. On parlait de Dayo et de Dyer. Pourquoi ? Parce que c'était la veille de notre match et on regardait, c'était Bayern Lazio si je me trompe pas. Jude il parlait de Dyer et moi je parlais de Dayo. Donc aujourd'hui, on va rétablir la vérité. Je sais que ça va moins vendre, mais c'est ça qui s'est passé.
Manu Collet fait son retour avec les espoirs.
Avec l'équipe de France olympique, parce que ça y est, il a de l'âge de nouveau de jouer avec la sélection de Thierry Henry, lui qui ne pouvait plus jouer avec cette sélection. Et du coup, il a rencontré Hugo Guimet, il a raconté son arrivée avec l'équipe de France de Thierry Henry. C'était sa rencontre finalement avec le nouveau sélectionneur, il était plutôt impressionné.
Sur le terrain, quand il a son poste d'entraîneur, on va dire, il sait être sérieux et nous on doit respecter ce qu'il demande. Mais sinon, après, il est cool en dehors du terrain et tout. Il sait faire des blagues, on rigole entre nous. C'est du bon vivant. Déjà, il est impliqué dans la séance. On peut le voir des fois mettre le chasuble quand il manque un joueur, avec Gaël surtout. Ça montre son implication et surtout, dû son expérience, c'est-à-dire qu'il montre un peu la voie surtout aux attaquants et aux autres joueurs aussi.
Bon, hier, on a vécu le tirage au sort des garçons. L'équipe féminine d'Hervé Renard également a son tirage.
Ouais, elles affronteront la Colombie, le Canada et la Nouvelle-Zélande. Hervé Renard qui était présent à ce tirage au sort, qui en a profité d'ailleurs pour dire qu'il partirait à l'issue de ces Jeux Olympiques.
Le PSG joue en Ligue des Champions.
C'était les quarts de finale. Allez, elles ont pris une belle option pour la qualif. Succès en Suède du côté de Haken. Victoire 2-1 pour les Parisiennes. Premier but signé Eva Gatineau, défenseuse américaine qui est arrivée cet hiver 23e. Elle reprend le ballon sur un corner. 1-0 pour les Parisiennes. Elles vont avoir un pénalty. Les joueuses d'Aken, pénalty qui va être arrêté. Sauf que, eh bien, celle qui l'a tiré, Kafadji, a bien suivi. Ça fait un partout entre ces deux formations. Seconde période, les Parisiennes qui vont marquer grâce à Tawita Chawinga à un quart d'heure de la fin. Succès 2-1 pour Paris qui est en bonne position avant le retour qui sera la semaine prochaine pour se qualifier en demi-finale de la Champions.
Le Maroc veut créer le stade du siècle.
Futur co-organisateur, on le rappelle, de la Coupe du Monde en 2030 avec l'Espagne et le Portugal. Et bien, le but du Maroc, tout simplement, c'est de construire le stade le plus gros de la planète. 115 000 places, il sera situé du côté de Casablanca. Sachez que le consortium d'architectes a déjà été choisi, donc ça commence à prendre une bonne tournure pour ce stade gigantesque.
Et puis, je vous l'ai dit, ce soir, c'est une soirée multiplex, les qualifiers avec les barrages de l'Euro 2024. La voie A, Pologne, Estonie, Pays de Galles, Finlande. Le vainqueur de cette voie A sera dans le groupe de la France. Voie B, Bosnie, Ukraine, Israël, Finlande. Et puis la voie C, il y a Grèce, Kazakhstan. Et on a déjà un qualifié dans le match entre la Géorgie et le Luxembourg.
Un qualifié pour la finale, la Géorgie qui s'est imposée 2-0 face au Luxembourg dans des conditions un petit peu rocambolesques. Alors ils étaient privés de Kvaratskhelia, le joueur de Naples qui est leur meilleur joueur. Il marque le premier but. Les Géorgiens, c'est Zividadze et qui marque le premier but de ce match juste avant la mi-temps. Luxembourg égalise, 53e minute. Le but, hop, égalisation des Luxembourgeois. Sauf que l'arbitre va revenir à une faute qui avait eu lieu au préalable sur une action géorgienne. Carton rouge pour un Luxembourgeois, but annulé, c'est Maxime Sano qui va être coupé d'un carton rouge sur une faute sur Miko Tadze d'ailleurs, et la Géorgie qui va en profiter, qui va marquer un deuxième but, une minute après, scénario de dingue, et donc qualification pour la finale pour la Géorgie qui affrontera le vainqueur de Grèce-Kazakhstan, match à suivre, tous ces matchs d'ailleurs sont à suivre sur l'équipe live.
Voilà, ça veut dire que la Grèce, le Kazakhstan ou la Géorgie, l'une de ces trois équipes sera à l'Euro 2024. Dans un instant, la petite lucarne de Pierre-Antoine, on jouera, on parlera des salaires du côté du Paris Saint-Germain, et puis ce soir, soirée exceptionnelle, multiple des barrages pour l'Euro autour de Messaoud Ben Terki. A tout de suite. Soirée multiplex ce soir sur la chaîne L'Équipe, les qualifiers, c'est multiplex barrage de l'Euro 2024. La Géorgie est déjà qualifiée, elle a battu Luxembourg. Dans la voie C, on connaîtrait les futurs adversaires des Bleus une partie dès ce soir. On va poursuivre notre émission avec la petite lucarne. Dans un instant de Pierre-Antoine Damcourt, on jouera, ce sera un petit jeu des 10. Et tout de suite, voici l'œil d'Alicia.
Bye.
pas de surprise encore cette année. Le Paris Saint-Germain truste de nouveau le classement des plus gros salaires de Ligue 1. 10 sur 10, 10 Parisiens dans le top 10. Le club de la capitale, loin devant son rival marseillais ou lyonnais en termes de masse salariale. Jusque-là, je ne vous apprends rien. Un petit détail change légèrement la donne. Les départs de Lionel Messi et Neymar avec leurs salaires stratosphériques respectifs. Vous ajoutez à ça les départs de Marco Verratti et Sergio Ramos. Forcément, ça fait baisser la masse salariale du club. Ça permet une plus grande marge de manœuvre pour recruter. Et bientôt, vous ajoutez celui de Kylian Mbappé. Allez, pour le plaisir, on rappelle son salaire, 6 millions d'euros mensuels bruts. Alors, est-ce que c'est forcément bon signe pour le club, pour la Ligue 1? Eh bien non, enfin, je ne trouve pas. Le fossé est tellement énorme, les salaires parisiens classiques restent tellement élevés. Quand on se dit qu'un Nordi Mukiele est à 700 000 euros par mois, par exemple, les salaires ne sont pas prêts d'être divisés par deux. Et c'est qu'une question de temps avant que Warren Zaïre-Emery, pour ne citer que lui, touche lui aussi un salaire mirobolant. Le PSG restera le PSG avec ses salaires hors normes et sans concurrence.
Alors voilà, évidemment, ça, c'est un point de vue par rapport à la concurrence de la Ligue 1. Mais Karim Benani, est-ce qu'on ne peut pas le voir aussi dans la gestion du club? Aussi ce côté bonne nouvelle, bon signe qu'on pose comme
oui,
question.
Je comprends l'avis d'Alicia totalement, mais là où je ne suis pas forcément d'accord avec toi, Alicia, c'est qu'il faut décorréler fatalement le PSG des autres clubs de Ligue 1. Ils ne disputent pas le même championnat aujourd'hui. Il y a deux championnats, celui du PSG et les autres. Et en fait... Karim disait tout à l'heure, il y a un État derrière le Paris Saint-Germain. Donc, ils ont les meilleurs moyens, les plus gros moyens. Donc, on regarde l'évolution du Paris Saint-Germain en termes de salaire. Et moi, je trouve que, effectivement, ils font moins de folie. Moi, quand on donne un salaire mirobolant à Messi, à Sergio Ramos, et qu'on sort, je trouve ça démesuré. Ça n'a aucun sens pour des joueurs en fin de carrière. Là, ils font des investissements. Ils vont chercher Ousmane Dembélé, qui est un international français. Ils lui donnent un gros salaire. Moi, ça me parle, ça, pas de problème. Même Nordi Mukiele, parce que tout à l'heure, Karine en parlait, qui rapatrie un joueur comme Nordi Mukiele, qui était un bon prospect quand il était à Montpellier, bah, moi, ça me dérange pas.
Alors, bah, 700 000!
Oui, mais c'est selon l'échelle du club, Karine aussi.
Formé en France.
Moi, ça me dérange pas. Là,
pour les ligues,
où je trouve que le PSG aurait tout à gagner pour avoir un championnat plus compétitif, pour se frotter à des équipes plus compétitives, pour terminer, le PSG devrait faire comme Lyon le faisait dans les années 2000, investir dans le championnat.
Ils l'ont fait. Sur Ekitike, ça a été un four.
Oui, mais uniquement sur les tickets sur les quelques
Barcola,
dernières
années. Barcola, ils ont acheté 50
millions d'euros. Voilà, ça c'est bien. Moi je trouve que là, oui, mais je devrais faire ça.
Alors ils ont acheté Barcola. Et derrière, on nous dit, à l'époque, on nous disait c'est ridicule de mettre autant d'argent sur Barcola. Bah, c'est un échec, c'est une réussite du coup.
Bah, bien sûr que c'est une réussite. Et ça a remplumé Lyon et ça permet à l'argent de rester dans le championnat de France et à permettre à d'autres équipes de grossir.
Alors, est-ce que vous trouvez que c'est bon signe, Karine? Vous êtes plutôt. Enfin, quand je dis bon signe, c'est. Peut-être on est sur l'an 1 sportif du PSG, vous avez vu cette nouvelle façon de travailler avec Luis Enrique. Est-ce que du coup, il y a moins de folie des grandeurs, plus de cohérence au moins dans le club? C'est ça que je veux dire.
Non, moi je ne vois pas ça forcément comme ça. Le principal, en fait, c'est que des joueurs qui te rendent sur le terrain soient payés des fortunes. Moi, ça ne me gêne pas du tout. Je veux dire, que Warren Zaïre-Emery demain soit potentiellement le deuxième ou troisième plus gros salaire du club, je comprendrai. Ce que je ne comprends pas, c'est que des joueurs qui sont lambda, qui ne se sont absolument pas imposés, sont au PSG aujourd'hui avec des contrats longue durée et qui n'apportent rien. C'est-à-dire que tu es Ruiz, que tu es Solaire.
Ruiz, il est dans le 11.
Mais Karine, il prenait combien à Naples?
Non, mais en fait,
c'est
non, mais
pour les faire venir, t'es obligé de leur donner
des salaires. Tant mieux pour lui, mais en fait, ça n'apporte rien spécialement au PSG. Mais le PSG, c'est pas grave en fait. Moi, je trouve que la question ne se pose pas au PSG. Le gros problème, c'est tous les autres clubs. Parce que le PSG n'est pas en danger. Le problème, c'est tous les clubs qui surpayent des joueurs très moyens et qui, eux, ont vraiment des difficultés pour boucler leur budget devant la DNCG. Le PSG, c'est pas grave. Ils peuvent faire des erreurs, ils en ont fait des tonnes.
Je voulais dire qu'en fait, ce qu'on disait souvent, c'était que le drame de certains clubs, de certains présidents ou directeurs sportifs, c'était de surpayer des joueurs moyens. Ça se voyait évidemment majoritairement au PSG quand c'était le cas.
Mais le PSG, ça les a jamais mis en vraie difficulté.
Alors que pour d'autres, c'est plus embêtant.
Bah, tous les autres clubs, vous prenez les 19 autres quasiment, eux, ils ont vraiment des difficultés parfois et ils ont quand même beaucoup d'argent. Il faut arrêter de dire que la Ligue 1 est pauvre.
Ouais. Surtout que maintenant, il y a du naming.
Non, mais ils ont de l'argent, ils ne le dépensent pas.
Je vous vois gratouiller votre barbe, je sens que vous avez quelque chose à dire. Un vieux sage, Bruno.
Non, mais en fait, en gros, je trouve quand même que c'est un bon signe. Par exemple, là, rien que pour l'année qui va arriver, le départ de Kylian Mbappé sur les salaires, on revient sur le salaire, ça va permettre de faire un appel d'air au Paris Saint-Germain qui va pouvoir recruter à des, si tu veux à peu près être sur du 800 000, 900 000 ou 1 million d'euros, tu vas pouvoir prendre 2, 3, 4 joueurs de très haut niveau. Et donc, être peut-être sûrement compétitif. On a pu le voir dans l'article de l'équipe ce matin, et de Loïc et d'Arnaud, il y a aussi un travail qui est fait, on l'aime ou on l'aime pas, par Campos, le directeur du foot, pour refaire les contrats et avec des histoires de primes où on travaille un peu mieux les contrats et où justement tu te retrouves pas à Kurzawa, j'ai besoin que tu restes, blam, 500 000.
Et Kitike, ça date d'il y a un an et c'était Campos.
Oui, non, mais sauf que le contrat d'Ekitike n'était pas complètement fou et il est parti. Non, mais il est parti. Il s'est en allé.
Oui, mais c'était fou. Pour un mec de Reims de prendre comme ça.
Mais si on nous dit qu'il faut en mettre l'argent en Ligue 1, ils ont tenté un truc, non ?
Ils ont essayé.
Non, mais c'est un échec.
D'accord, mais ça fait entre tenter à 15 millions et à 35, et surtout c'était le salaire qui était dingue.
Mais s'ils l'ont vendu 30, dans l'autre.
Mais c'est comme Verratti, vous dites qu'il a été vendu une tonne.
Tu connais le prix des joueurs quand l'OM va chercher Vitinha. Ils se disent, il y a des clubs anglais de seconde zone qui ont des droits télé qui sont plus importants que
Mais Vitinha, c'est n'importe quoi. Openda, il a été acheté 10 millions. Je veux dire, Lens, ils savent bosser.
Quand arrive dans un deal, tout de suite, c'est plus 20. D'entrée, il arrive dans un deal, c'est plus 20.
Allez, Olivier, on finit avec vous.
Mais moi, je trouve que le PSG, aujourd'hui, il y a une gouvernance qui est plus en rapport avec ce qu'est un club de foot. Pour moi, avant, le PSG n'était presque pas un club de foot, c'était presque une entreprise de marketing et d'image. Et le travail, il a été fait et très bien fait. Aujourd'hui, la marque PSG, elle cartonne partout. Mais je vois Neymar partir, je vois Messi partir, je vois Verratti partir, je vois Mbappé partir. Et j'élargis le spectre à la Ligue 1 et je me dis que c'est une très mauvaise nouvelle, en fait. Je trouve que comment est-ce qu'on va pouvoir vendre cette Ligue 1 à l'étranger si le PSG... Oui, mais si le PSG commence à acheter un petit peu moins bien, si la locomotive de la Ligue 1 roule plutôt à l'ordinaire qu'au super, je trouve que c'est vraiment une très mauvaise pub pour la Ligue 1 et j'aurais préféré que le PSG ramène une ou deux stars pour que la Ligue 1 reste un petit peu attractive à l'étranger.
Bon, voilà, on aura eu tous les avis et ça, c'est plutôt sympa. Voici le moment de jouer avant la petite lucarne de Pierre-Antoine. De rapidité, c'est important dans un jeu des 10. Contre qui jouent les espoirs demain?
L'Allemagne,
Côte d'Ivoire.
Oui, Côte d'Ivoire, Adrien Courrouble. Trouvez-moi les 10 dernières nations ayant gagné contre les Bleus. Je répète, ayant gagné sur le terrain contre les Bleus. À l'issue du match. Alors, quelles sont les 10 dernières nations ayant gagné contre les Bleus? Vous voyez, c'est comme pour dans un site de Paris. Vous voyez ce que je veux dire? J'en dirai pas plus.
L'Allemagne.
Oui. Amical 2023, ce sont les derniers à avoir battu les Bleus. Bien joué, Adrien. Olivier Bossard.
Pourquoi j'ai dit que je voulais jouer?
C'est déjà en train de plisser les yeux, Olivier.
Pourquoi j'ai dit que je
Allez.
L'Argentine, mais...
Mais non, c'est au penalty. Et voilà, et pourtant, j'ai mis les red flags, les warnings et tout. Hein. Et en plus, bon...
Oui, mais la prolongation, ça marche. Hein.
Oui, la prolongation, ça marche, mais là, c'était pas...
Ouais, c'est ouais. Bon, c'est peut-être un peu vieux, quand même.
Karine.
Portugal. 2016.
Eh ben non, on remonte pas si loin. Désolé. Bruno.
L'Espagne. Vraiment.
L'Espagne, il jette la pièce et ça tombe du bon côté. 10e amical 2017. Bien joué.
C'était short.
Il a pas fait exprès. Hein. On adore, mais ça on aime. Karim.
La Tunisie.
La Tunisie, bien sûr, Coupe du Monde 2022 en groupe. Eh oui. Alicia.
Le Danemark.
Le Danemark, bien sûr, Ligue des Nations 2022. Adrien.
Les Pays-Bas.
Pays-Bas, oui, Ligue des Nations 2018. Olivier Bossard.
J'aimerais bien.
Ah non, il n'est pas là. Karim Galli.
Non, mais je suis éliminé.
Ah bah oui, vous perdez trop vite. Bruno.
Oh, ça revient beaucoup trop vite.
Ah bah oui, mais là, j'ai plus que vous trois, hein, les lapins. Hein. Ah non, j'ai l'autre côté, Adrien. Oh, je suis en panique. Dites-moi non.
Côte d'Ivoire.
La Côte d'Ivoire, c'est non. Karim Benani.
Les avez battus, malheureusement.
Waouh.
5. 4. 3.
Je vais
2.
L'Irlande.
Comment ?
L'Irlande.
L'Irlande, c'est non. Alicia.
L'Angleterre.
L'Angleterre, c'est non. C'est qui a commencé ? C'est Adrien ? Il a gagné ce jeu. Bravo, Adrien. Vous en avez deux. Bon, bien sûr, allez-y.
Je tenterai la Turquie, la Croatie et l'Autriche.
Turquie, oui, qualif Euro 2019. Croatie, oui, Ligue des Nations 2022. L'Autriche, c'est non. Il restait la Finlande, la Colombie et la Suède. Voilà les 10 nations qui ont battu la France ces dernières années. Allez, voici la petite lucarne. Pierre-Antoine Damcourt.
La Colombie, c'était 3-2.
Vous voulez jouer ?
Semaine internationale, faut se souvenir. Hein.
Ça va ? Je
donne la Dobidène sur votre
entrée. Ah oui, attention, ça va faire fureur ce week-end. Dans un instant, on parlera du nouveau sponsor de la Ligue 1, évidemment. Enfin, un sponsor qui sent bon le bien manger, la bonne santé, l'équilibre. C'est important pour faire du sport.
Il y a des légumes dans les
Oui, il y a des légumes, évidemment. Il y aura aussi notre top titre de la semaine. Mais avant, un petit tour de terrain
pour nous mettre en jambes. C'est parti, on y va. Qu'est-ce qu'on a eu? Regardez, c'est la trêve partout, sauf sur le terrain de foot amateur où on a vu un super but du gardien. Le Baïnoisi contre voisin, le bretonneux.
Belle pelouse.
C'est le foot qu'on aime. Attention, si vous retrouvez le relou qui se cache sur cette vidéo. Oh, t'es relou. Ah, c'est pas... Arrête. Oui, il t'a entendu. Super, génial. Merci, arrêtez d'embêter les joueurs, ça serait sympa. Amir Biman, on a trouvé un petit exercice pour vos entraînements.
Non.
Vas-y, vas-y. Oh, ouais. Je pense que nous tous ici, on se fait écraser, littéralement. Ouais. Votre exercice, voilà, pour travailler le jeu de jambes du coach. Ouais, droite, gauche, hop. Super. Et nouveau sport, vous allez voir qu'on va diffuser en prime sur la chaîne L'Équipe.
Ouais.
C'est du volley bon. Non mais ça nous on achète, il n'y a aucun problème.
C'est assez spectaculaire.
Ouais, alors c'est un peu chiant, j'ai regardé pendant une heure et demie cet après-midi, c'était un peu chiant. Et enfin une figure. Mais elle a tenté un truc qu'elle maîtrisait pas.
Peut-être là le coup.
Le casque, très important.
Un backflip.
Il connaît les mots, Karim, il dit backflip.
C'est du bluff,
c'est un backflip.
Une vautrade, tout simplement.
J'ai envie de parler de l'homme moderne. L'homme moderne, c'est l'homme 2024. L'homme qui, derrière ses gros biscottos, cache des talents insoupçonnés. Et pour voir ça, direction Clairefontaine, regardez l'agent de sécurité qui va passer derrière Giovanni Castaldi. Regardez, agent de sécu, balèze, machin. Eh bien non, regardez. Ça repasse, ça donne la main. C'est ça aussi Clairefontaine. Tout le monde file la main. Et puis, hop là, du coup, France, elle a sauté sur l'occasion pour, évidemment, lui rappeler que s'il avait un problème de repassage.
Si ta chemise est mal repassée, si ton pull est mal repassé, Joe, tu peux te retourner.
Il a eu peur tout de suite.
Con. On repasse la nappe.
Non, derrière, pour, c'est une balle. Ça va, tout va bien, Joe.
Faites bien joli. Donc voilà.
Il pointe toujours, Joe.
Oui, alors je ne sais pas le dire. Je me dis qu'on peut le dire. Mais oui, oui. Je lui ai écrit pour savoir si c'était un agent de sécu qui était derrière. Il a vu la capture d'écran. Il m'a dit, mais attends, je lui ai dit oui. Il m'a dit que je ne remettrai plus ce pull. Je lui ai dit oui, c'est une bonne idée, Giovanni, évidemment.
C'est sûr qu'on peut lui dire.
Évidemment. Les amis, vous saviez que le tournoi olympique n'est pas une date FIFA? Vous le savez ou pas? On le sait. On le sait. Thierry Henry a eu très envie de le répéter aux journalistes qui étaient là. Il fallait qu'il sache ça. C'est obligatoire.
Et c'est pas une date FIFA, et tant que ça ne sera pas une date FIFA, c'est pas une date FIFA. Mais si c'est pas une date FIFA, en tout cas, c'est pas une date FIFA, il va falloir que ça en devienne une. Sur ce sujet-là, c'est vrai que si c'est une date FIFA, il n'y a plus de discussion.
Et attention, vous allez voir, là, Thierry, il est parti loin dans la comparaison.
On vit dans un monde où si tu mets pas de règles, les gens ils font ce qu'ils veulent. C'est pour ça qu'il y a des feux, sinon les gens s'arrêtent pas. Les gens, ils s'arrêtent déjà pas au stop. Et il y a marqué en gros stop. Ils prennent ça comme un CD le passage.
Alors, moi, à un moment, je me suis cru à l'auto-école. Il y a A, B, C, D. C'est quoi, CD le passage? Merci, Thierry, en tout cas.
Il est légaliste.
C'est ça. Magnifique. Alors, ça y est. La LFP a trouvé son nouveau sponsor pour les trois prochaines saisons de Ligue 1. Après la Ligue 1 Uber Eats, c'est la Ligue 1 McDonald's pour 30 millions par an et par saison. Oui, je crois que c'est ça.
30 millions par an, 90 sur 3 ans.
Ouais.
Non, je fais un
ça va vite là. Hein. D'ailleurs, le président de la LFP s'est exprimé évidemment sur son choix. Mesdames, messieurs, la Ligue est très heureuse de vous annoncer son nouveau partenariat pour les trois prochaines saisons de Ligue 1. Alors nous recherchons une marque aux valeurs qui nous correspondent pour le sport, la bonne santé, et c'est pourquoi la marque Biosport qui propose des produits équilibrés, naturels et bio. Cette marque s'est donc proposée à nous pour le sponsoring des trois prochaines saisons.
Ah oui, donc ce sera la Ligue 1 Biosport.
Ah non, pas du tout. Ils nous proposaient 500 euros par saison, les bouffeurs de graines. Non, ça sera la marque Ligue 1 McDo. Oh là là, on n'est pas con parce qu'il y a quand même Mbappé qui part, donc il faut qu'on fasse rentrer du fric. Hein. 30 millions par saison, putain.
Mais les burgers, c'est pas très bon pour la santé,
c'est. C'est pas bon pour la santé, non mais attendez. Graines de sésame, là, hein. C'est de la salade. Vive la Ligue 1, vive le foot et vive la thune. Et merci. Même 4, on leur fait 4 fois. Non, je rigole. Arrêtez. C'est l'heure du top 10 de la semaine, rassurez-vous, Karine. Il n'y a qu'un podium cette semaine. Ah ouais, on a raccroché un peu, c'est un top 3, on y va.
Faites pas de gros plans sur Karine.
Non. Maintenant, elle pleure. Regardez, c'est un podium avec un top 3, deux ex-aequo. Et celui-là, je l'aime bien, c'est le Sakari de nouveau, puisqu'elle a gagné. Elle rit de nouveau. Et attention, vous allez voir, on part en Loire-Atlantique. Ah non. On part à Nantes, la foire atlantique. Super. Et les deux premiers sont pas mal. Le Dauphiné nous offre un très beau, regardez, Kevin Mayer, San Diego pour être
c'est
San Diego pour se qualifier pour les jeux. On a aimé celui de ce foot avec le doigt là où ça fait mal.
C'est bien ça.
On avait tout. Franchement, Karine, San Diego, parce qu'il est à San Diego, Kevin Mayer. Il doit faire les minima pour être au JO. Son Diego pour être libre dans sa tête.
Très bien. Et Douala, capitale du Cameroun. Non, c'est Yaoundé d'ailleurs.
Ouais, c'est
un joueur.
Douala, c'est un joueur.
Oui, oui.
Ah, ben c'est bien aussi. Enfin, Douala, c'est une ville.
C'est pas la journaliste sportive, non.
Douala, c'est une ville.
Moi, je pars pas dans cette discussion avec Karine Galli. En tout cas, les joueurs prochains grand pas, les amis. Et ça y est, on a appris que finalement les bébés devront être munis de billets pour les épreuves, ouais. Pas de pack famille, pas de tarif place enfant, non c'est pam, tout le monde plein pot, même un bébé de 1 mois devra payer. Et oui, c'est payant, vrai. C'est payant pour les bébés, et du coup ça n'arrange pas le couple Pichard.
Ah.
Ouais, enfin surtout monsieur Pichard.
Aïe aïe aïe.
Alors monsieur et madame Pichard, bah, tout va bien, le bébé s'est retourné, la taille, le poids, tout est parfait, et pour le terme ça sera au mois de juillet, mi-juillet environ. Hein.
Super, j'ai hâte.
Ah non, mais non, mais non, bah non, pas juillet, c'est mort, c'est dead, pas juillet. Non.
Mais qu'est-ce qui t'arrive chouchou?
Non, non, bah juillet c'est nul, on peut pas... hein. Août, septembre, octobre. Octobre, c'est bien. Octobre, c'est bien.
Bah non, non. Octobre, elle sera à 11 mois de grossesse. Vous imaginez, c'est une femme, c'est pas un éléphant quand même, hein.
Mais qu'est-ce qui se passe, chouchou?
Mais il se passe que j'ai dépensé une blinde pour acheter des billets pour les JO et que maintenant, il faut des billets pour les bébés. Donc, je sais pas comment on va faire. On n'a pas de moyen de garde, donc on va tout rater. Le judo, l'athlète, tout. Super, super, Tony Estanguet. Putain.
Ah, oh, bah si c'est que ça, je vais vous le garder, moi. Hein.
C'est vrai? Mais non, je déconne. J'ai des places carrières pour l'athlétisme et judo aussi, hein. Je vais me régaler, donc vous démerdez, hein. Et ta sœur, elle peut pas nous le garder?
J'ai pas de sœur.
Oh, bah elle a pas de sœur. Super. Première nouvelle déjà. T'as pas de sœur?
Mais non.
Quelle actrice! Alors, chouchou!
Alors, chouchou, elle est magnifique. En plus, il n'y avait personne en face. C'est ça qui est dur.
Ouais.
Tu peux pas être. Juste avant Messaoud. Et je fais le teasing à la face.
Ouais, c'est bien.
C'est ça que vous faites. Juste avant Messaoud et le final, le barrage. C'est les barrages. C'est les barrages.
Vas-y, ouais.
Pour savoir qui va affronter les bleus, c'est sur la chaîne de l'équipe. Parce que je sais pas si tu. Oui, exactement. On se quitte avec le bleu. C'est pour vous, Bruno Salomon, le petit hockeyeur qui se rappellera toute sa vie de son but.
Oh.
Oula.
Oula. Il s'est relevé, il portait un casque.
Bravo, il allait bien. Merci Palam, bravo Messaoud, rentrez.
Messaoud,
Messaoud,
Messaoud, Messaoud, Messaoud.
Venez, venez, venez.
Prenez-le en photo.
Vas-y.
Je peux faire une photo aussi de Messaoud.
Il y a Lewandowski qui joue quand même.
Ah, super.
Attends, moi aussi je veux un selfie avec Messaoud. Mais c'est Messaoud.
Il y a Lewandowski qui va apparaître à tout moment.
Voilà. Qu'est-ce que vous faites, la photo bombe? Vous cassez-vous. Messaoud, soirée barrage.
Ouais. La vraie star, c'est Lewandowski avec la Pologne, qui est bien là. Pologne face à l'Estonie.
Bien sûr.
Et le pays de Galles face à la Finlande pour connaître donc potentiel adversaire de l'équipe de France dans la voie A. Donc ça se jouera entre ces quatre équipes. La Géorgie, vous l'avez dit tout à l'heure, a gagné. Oui, la Bosnie-Herzégovine. Djeko et là, les stars sont là. C'est des soirées qu'on adore parce qu'il y a du suspense, de l'émotion et qu'on va connaître eh bien, les finalistes pour aller s'offrir les trois derniers tickets pour l'Euro 2024.
Bah, c'est génial. Et on rappelle que la Géorgie est déjà qualifiée pour la finale. La voici. On va attendre Luxembourg 2-0. C'est parti pour cette soirée multiplex. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci à tous les six d'avoir été là. Mais c'est une bonne soirée foot sur la chaîne. L'équipe.
Allez,
dans la foulée, ce sera l'équipe du soir. Et puis nous, on revient pas demain, puisque demain, il y a l'équipe de France Espoir contre la Côte d'Ivoire à 18h20. C'est lundi 18h30. Beau week-end sportif sur la chaîne L'équipe avec notamment cette soirée barrage avec Messaoud. Oh, je peux vous faire un bisou, Messaoud, je vous adore.
Bonne soirée. À tout de suite.
C'est formidable.